Bonjour à toutes et tous, nous sommes le samedi 10 février 2018, il est 10h et comme tous les deuxièmes samedis du mois sur les ondes de 48 FM, nous allons être très urbains et consacrer 2 heures à évoquer la ville sous tous ses aspects. 2 heures à documenter les enjeux urbains, c'est L'erreur est urbaine, une émission proposée par la SBL Urbagora, préparée et réalisée par mes soins.
L'erreur est urbaine.
Je suis très content ce mois-ci de réunir autour de moi presque tous les chroniqueurs habituels de cette émission, et même un peu plus puisque nous aurons tout à l'heure l'honneur et le plaisir de recevoir Caroline Lamarche, auteure bien connue des Liégeois, qui viendra nous proposer une nouvelle rubrique sur le pont et qui évoquera pour nous le cas de la dentisterie. Le dossier sera quant à lui consacré à un sujet sensible et complexe s'il en est, à savoir les pauvres et la ville, et sera co-animé par Kitry Lechner qui nous rejoindra tout à l'heure. Et pour ce qui est des chroniqueurs dont j'évoquais la présence tantôt, nous recevrons dans le désordre Lisa de Vischer pour son agenda architectural, Justine Glosner qui nous revient pour continuer sa réflexion sur la ville et le genre, Mathieu Bossir pour sa chronique à roulettes qui aura la lourde tâche de commencer cette émission, et il ne nous manquera plus ce mois-ci que Pavel Kunich malheureusement qui ne pouvait pas se rendre disponible. C'est L'erreur est urbaine, à retrouver sur les ondes de 48FM et en podcast sur urbagora.be/radio, mais aussi sur Facebook, et ça commence tout de suite.
L'erreur est urbaine.
Et le retour de la chronique à roulettes de Mathieu qui nous parle de vélo. Et alors, je le sais, parce que je le connais bien, je sais que cette fois, il n'a pas pris un bouquin et qu'il a préparé sa chronique et que ça fait plus d'une semaine qu'il se torture l'esprit. Alors, j'espère que ça aura à peu près le même niveau littéraire que ses citations de Delerme ou autres bicyclotophiles. Mathieu, on t'écoute.
Alors, cette semaine, je vais vous parler de vélo, encore une fois. Et plus particulièrement de vélo et d'anarchie. Je crois que j'en avais fait l'annonce la semaine dernière. Si c'est bien ça que...
Le mois passé.
Le mois passé, voilà.
Ne surestime pas ton travail.
et voilà. En fait, je suis tombé sur un article il n'y a pas très longtemps. Ça s'appelle « Un vélo, c'est une selle, des pédales et un peu d'anarchie joyeuse ». C'est un article sur lequel je suis tombé il y a quelques temps et qui réagissait à une campagne de sécurité routière de la police suisse qui, soit dit en passant, insulte à demi-mot les cyclistes dans l'une de ses vidéos. En fait, non, il les insulte ouvertement. Je cite « La mort, c'est de rouler comme un con à vélo, avec une petite pointe de condescendance qui va bien, et le tout sur fond d'une vidéo d'un mec se faisant percuter de pleine face par une voiture. Paf, bien fait !» À la fin du clip, on vous donne une petite statistique qui arrive comme une cerise sur un gros gâteau de nullité. Un accident sur deux impliquant un cycliste est de sa faute. Après m'être écrié d'un bon gros « what the fuck », après avoir fulminé devant mon ordinateur et écrit un statut Facebook enflammé aussi utile qu'un coup de pied au milieu d'un groupe de pigeons bruxellois, j'ai décidé de voir ce que disaient un peu nos amis suisses, puisque c'est d'eux qu'on parle, sur le sujet. Et voici donc que je tombe sur cet article intitulé « Un vélo, c'est une selle, des pédales et un peu d'anarchie joyeuse ». Malgré les lacunes évidentes du journaliste en mécanique, il introduit une notion qui me plaît bien à moi, jeune alternatif liégeois, c'est l'anarchie. Mais j'y reviendrai plus tard. Je reprends mon histoire, je suis énervé, je fouille donc les internets pour rassasier mon biais de confirmation et je tombe sur cet article. Et là, surprise, je m'aperçois qu'il a raison. Je suis de mauvaise foi. Voilà ce qui s'est passé. Après avoir vu la vidéo scandaleuse, je me suis énervé car je me voyais respecter les feux rouges, laisser la priorité, être cordial, m'arrêter pour laisser traverser les grands-mères, le parfait usager de la route, quoi. Et voilà que ce gougnafier de cyclo-journaliste suisse me demande de repenser à mon dernier trajet à vélo. N'aurais-je pas sauté un trottoir ou deux, roulé au milieu de quelques piétons ahuris de me voir aussi agile à les éviter? Eh bien oui. Je me l'avoue à moi-même, j'ai osé, j'ose et j'oserai encore ne pas me laisser ranger dans la même case qu'une bagnole. Voilà pourquoi il a raison de me dire que je suis de mauvaise foi. Oui, je roule sur les trottoirs. Oui, je grille les feux quand je juge que ma vie n'est pas menacée. Oui, je prends ma place dans la rue quand la pression des autos devient trop forte autour de moi. Et oui, je prends des risques. Parfois. C'est précisément à ce moment qu'arrive l'anarchie. Alors mettons-nous d'accord tout de suite, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes avec la vieille étiquette puante qui colle à l'anarchie. Non, l'anarchie n'est pas un principe visant au chaos absolu où l'humain se complairait à vivre dans un monde à la Mad Max en se droguant autour d'un feu de bidon dans une vieille usine désaffectée. Oui, l'anarchie, c'est un mode de vie, une politique omniprésente et les valeurs de base seraient des libertés fraternisant avec l'égalité. Mais revenons-en à nos vélos. Je crois que lorsqu'on est sur sa bicyclette, c'est à chaque fois un bouleversement qui s'opère à l'intérieur de notre tête. Nous sommes plus rapides, plus mobiles et surtout nous sommes en territoire hostile. J'entends ici le macadam pour voiture. Car sur la route, on vous tolère seulement, un peu trop au milieu et c'est le klaxon vengeur d'un justicier dans sa boîte de conserve qui retentit. Si par malheur quelqu'un n'aime pas votre trogne, alors ce sera la queue de poisson, ou une insulte, ou les deux. Alors le vélo, oui, mais tant que ça ne dérange pas les voitures. Ce bouleversement qui s'opère quand on enfourche son vélo, il me fait dire que non, définitivement, je ne suis pas comme les autres usagers de la chaussée. Je suis différent. Je n'ai pas de moteur, je ne suis pas dans une boîte de 2 mètres sur 4, et non, je n'ai pas les mêmes règles que les autres. Je saute les trottoirs, je grille les feux, je roule au milieu des voitures, je me faufile dans la ville. La majorité du temps, j'agis en toute bienveillance. Soyons honnêtes, ce n'est un plaisir que pour certains d'emmerder gratuitement le monde. Deuxièmement, j'agis en sécurité car je ne suis pas protégé par 500 kilos de tôle. S'il m'arrive quelque chose, c'est d'abord mon corps qui souffre. Voilà donc notre anarchie. Le cycliste possède ses propres règles, non pas par volonté de dissidence, mais par l'absurdité du système existant. Je ne suis que toléré. Pourquoi voudrait-on qu'en plus je me sente bien ? À vélo, on agite au milieu de ces non-sens en utilisant le bon sens, en revenant aux règles de la vie en société que l'on a appris, à l'école, par exemple. Je parle de la bienveillance, du respect, de la sécurité et j'en passe. Le cycliste utilise sa tête pour se déplacer, pas des règles absurdes prises d'un monde de voitures et que l'on aurait tenté d'appliquer au vélo. Cette anarchie joyeuse, comme le dit Pierre Sanso, est fondamentale à comprendre si l'on veut nous intégrer dans la ville. C'est aussi pour cela que je m'oppose au parquage des vélos sur les pistes cyclables, mais ceci sera sans doute le thème d'une autre émission. J'aimerais finir sur une petite supputation personnelle. En effet, je crois qu'au-delà des implications écologiques, économiques, politiques qui amènent les gens à poser leur cul sur une selle, c'est bien cette même anarchie, ce goût de dissidence qui nous pousse, vent de dos, à ne pas prendre la bagnole. Et je pense aussi que c'est ça qui énerve les gens dans leur voiture, quand ils viennent de me voir griller un feu juste devant eux. C'est de pressentir que lui ou elle n'aura jamais cette liberté quotidienne qu'offre deux pédales et une selle.
Je tiens à préciser que je tiens les coordonnées de Mathieu à disposition de tout commissaire de police qui serait tenté d'écouter cette émission. Et pour rester un peu dans ce ton un peu décalé, alternatif et plus ou moins liégeois, je vous propose d'écouter une reprise de Mylène Farmer. Oui, oui, j'ai bien dit une reprise de Mylène Farmer par Greg Houben. Ça s'appelle Pourvu qu'elle soit douce et c'est assez jouissif.
Que jeunesse se passe, à quoi bon se bousculer? douce. D'un poète, tu n'as que la lune en tête. De même ondeur, tu es chaos. Tu t'entêtes, ça te faut de tout mon pourvu qu'elle soit douce. D'un esthète, tu n'as gardé qu'un air bête. Tout est beau si c'est vu du dos. Tu t'entêtes, ça te faut de tout mon pourvu qu'elle soit douce. D'un poète, tu n'as que la lune en tête. De même ondeur,
et on est de retour sur les ondes de 48FM, vous écoutez toujours l'erreur est urbaine, et j'ai le grand plaisir, je le disais en introduction, de retrouver Justine qui nous revient pour continuer son travail sur le genre et la ville. Salut Justine.
Salut.
On peut t'écouter.
Début février, je me suis rendue au FIC Festival à Liège, un festival de graphisme qui connaît sa deuxième édition et que je vous conseille vivement pour l'année prochaine. J'ai pu y écouter la conférence d'Hélène Mourier, graphiste et artiste transféministe qui développe son graphisme et ses projets au travers de la question queer et trans. Un de ses travaux présentait différentes propositions de pictogrammes, stickers, pour les toilettes transgenres, réalisées pour l'association Outrance en 2012. Suite à cette conférence, j'ai donc décidé de vous parler aujourd'hui d'une problématique qui pourrait paraître anodine, mais représentative de la question du genre dans la ville, les toilettes publiques. Dans une chronique précédente, j'ai déjà évoqué un des constats ressortant des marches exploratoires de l'ASBL Garance. Les villes manquent de toilettes publiques gratuites et entretenues qui empêchent les femmes de prolonger leur séjour dans l'espace public. Et un tiers des recommandations féminines faites suite à ces marches concernent la propreté des lieux. Le manque des toilettes publiques gratuites et nettoyées régulièrement réduit donc le temps d'usage de l'espace public par les femmes et leurs enfants. De plus, la présence d'urinoirs exclusivement masculins font penser aux femmes qu'elles ne sont pas censées rester suffisamment longtemps dans l'espace public pour avoir besoin de se soulager. Ce sentiment d'exclusion est renforcé par les odeurs d'urine qu'on retrouve dans l'espace public. Elles sont très désagréables pour de nombreuses femmes. Elles leur donnent le sentiment de ne pas être les bienvenues dans cet espace et que ce marquage de territoire est utilisé par les hommes comme une preuve de leur présence et de leur possession de l'espace public. Ces endroits non salubres entraînent donc un sentiment d'insécurité car ils paraissent abandonnés et sans surveillance. Des modifications de parcours, organisation de trajectoires spécifiques, stratégies d'évitement ou réduction de temps de parcours sont mises en place par les femmes suite aux localisations des toilettes publiques et entravent leur libre circulation dans la ville. Un plus grand nombre de toilettes publiques installées dans la ville et bien entretenues pourraient donc réduire ce désagrément. Nous pouvons maintenant nous interroger sur la mixité ou non des toilettes publiques. La proposition de toilettes neutres, accessibles à tous et toutes, pourrait répondre aux discriminations entre femmes et hommes, mais aussi à toutes les personnes de la communauté LGBTQI+. En effet, pour toutes ces personnes aux identités ou expressions différentes, les toilettes publiques peuvent devenir un véritable cauchemar, un lieu de violence et de harcèlement au quotidien. De plus, dans les toilettes publiques traditionnelles femmes-hommes, ces personnes sont forcées à choisir un genre face aux signalétiques se tenant sur leurs portes. À ce sujet, je vous invite donc à aller voir les pictogrammes proposés par Hélène Mourier sur son site qui casse la binarité femmes-hommes qu'on retrouve dans notre société. La ségrégation de genre qu'on retrouve dans les toilettes peut être vue comme paradoxale, vu qu'elle ne s'applique nullement dans l'espace privé. Je vais reprendre les mots d'Owen Augien, philosophe, directeur de recherche CNRS, dans un article sur Libération.fr intitulé « Aux chiottes, la discrimination sexuelle ». Il n'existe pas de tendance à séparer les toilettes pour hommes et femmes, garçons et filles, dans les appartements familiaux. Il ne faut pas oublier non plus qu'il existe déjà des espaces publics où la ségrégation selon le genre dans l'accès aux toilettes n'existe pas, les trains et les avions. Or, personne à ma connaissance n'a exprimé publiquement son dégoût ou sa gêne à l'idée d'utiliser ces toilettes mixtes ou exiger l'installation de toilettes séparées selon le genre dans les transports publics. La ségrégation de genre aux toilettes, lorsqu'elle existe, est sociale et rétrograde. Elle est soutenue par des hommes, par des normes d'obligation, de permission et d'interdiction dont l'existence est avérée par la peur, la gêne ou la honte qu'on ressent lorsqu'on essaye de s'y soustraire. Si vous êtes une femme, vous hésiterez à vous servir de toilettes pour hommes, même si elles sont vides. Vous supposerez que si vous êtes prise en flagrant délit par un vigile ou un autre usager, vous ne serez probablement pas félicitée pour votre audace. Idem pour les hommes qui s'aventurent à passer du côté des femmes, même s'il n'y a personne. Ils savent qu'ils risquent d'être humiliés s'ils sont appréhendés. Si vous êtes transgenre, vous aurez des ennuis dans tous les cas. Les normes sociales qui imposent la ségrégation de genre aux toilettes continuent de nous empoisonner la ville. Comme le dit si bien Erwin Goffman, cette forme de ségrégation est présentée comme une conséquence naturelle de la différence entre les classes sexuelles, alors que c'est un moyen de produire cette différence. Les toilettes dites neutres sont donc une solution possible, mais d'autres propositions visant à améliorer les questions et problématiques de genre dans l'espace public existent, comme l'utilisation des toilettes d'arrêts commerciaux ou horeca pour le public, l'implantation de caticabines dans l'espace public, l'installation d'uritrottoir, sorte de bac à fleurs urinoirs écologique, application smartphone pour partager des toilettes chez particuliers, camion itinérant, où les femmes pourraient faire leurs besoins debout ou les hommes leurs besoins assis. J'en passe. Ces différentes propositions ont été recueillies dans le mémoire d'une étudiante d'architecture de Liège, Eve-Marie Kéris, nommée « Genre et ville, l'égalité à travers la question des lieux d'aisance, le cas de Liège ». Celle-ci a également proposé différentes solutions inventives après avoir fait un diagnostic pour la ville de Liège très intéressant. Cette thématique des toilettes publiques vous aura sûrement fait sourire, et tant mieux. Mais j'espère qu'elle aura permis d'illustrer qu'il reste encore pas mal de travail, même chez nous, pour une égalité des sexes dans la ville, et que celle-ci peut être améliorée par de nombreuses choses, notamment la réflexion des toilettes publiques, pensée et réfléchie pour toutes et tous. Et la prochaine fois que vous aurez des besoins pressants dans l'espace public, et que vous soyez homme ou femme, rappelez-vous de cette chronique.
Merci Justine. Et comme on ne recule devant rien pour illustrer nos propos, je propose d'écouter immédiatement Pisser debout de Gidre, et pour rester dans le ton.
Si j'avais des poils sur le torse, si dans mon jean ça faisait une bosse, si j'avais du poil au menton, mais pas comme Susan Boyle, non, comme un garçon. Si mes poils sous les bras étaient acceptés, s'ils étaient un gage de ma sexualité, dans ma vie j'aurais beaucoup moins d'embrouilles. Si aussi, aussi j'avais des couilles, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques, et les capotes sont distribuées gratos dans la rue, alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. À 45 ans, je pourrais devenir un vieux beau, alors que là, à 30 ans, je serais déjà une vieille peau. Refaire sa vie avec une jeune bimbo, c'est quand même plus glamour que de se payer des gigolos. Ouh, 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 j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout, j'aimerais pouvoir pisser debout, pisser debout. Plus besoin besoin de m'accroupir comme une clodo entre deux voitures. Je pourrais en toute impunité pisser contre un mur. Plus de col enfilé, plus de cire orientale, plus de mascara qui coule, plus de frottis vaginal. Comme Mylène Farmer, j'ai posé cette question. J'ai dit, dis maman, pourquoi je suis pas un garçon? Ma mère m'a répondu que j'étais encore pire que ça. Vulgaire comme un mec, bête comme une fille, je suis les deux à la fois. J'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. J'aimerais pouvoir pisser debout. Pisser debout. Moi si j'étais un homme, je serais pas capitaine d'un bateau, non. J'irais plutôt me taper des putes à porte-maillot. Je remplacerais la salade sans sauce par une choucroute saucisse. J'aurais plus l'obsession de la taille 36. Je pourrais faire l'amour tous les jours du mois. Je serais capable de monter un meuble Ikea. Je serais plus une traînée et deviendrais un don Juan. Oh si j'étais un homme, si seulement. Si seulement je pouvais pisser debout. Pisser debout. J'aimerais tellement pisser.
Et donc c'est le retour aussi de Lisa. Et Lisa de Vichfer, tu viens nous parler de trois expos, c'est ça?
Non, deux expos et deux conférences.
Eh ben on t'écoute.
D'accord, bonjour. Donc mon but c'est aussi de, un peu de vous faire voyager. Donc je vous propose deux expos, une exposition à Bruxelles et une exposition à Anvers. À Bruxelles, la semaine dernière, le CIVA, donc le Centre international de la ville et l'architecture à Bruxelles, a ouvert une exposition qui s'appelle Operational Aesthetics. C'est une recherche qui a été menée conjointement d'une part par le département d'architecture contemporaine du CIVA et d'autre part par Mathieu Berger qui est professeur de sociologie urbaine à l'UCL. Une recherche sur les contrats de quartier, donc les contrats de quartier qui fêtent bientôt son 25e anniversaire. C'est une procédure en fait qui permet au sein des quartiers de retravailler et de réfléchir l'espace public en lien direct avec d'une part la politique de la commune et d'autre part les habitants et les usagers. Et donc c'est un moment qui était un peu un prétexte pour interroger la formation de la ville historiquement et sociologiquement en amont de la planification urbaine et l'architecture. Donc ça c'est une première exposition donc, qui a lieu, qui a ouvert en fait ses portes déjà jeudi dernier au CIVA et qui sera montrée jusqu'au 15 avril 2018 à Bruxelles. Ça c'est une première expo. Et puis une deuxième qui n'est pas ouverte encore, donc vous avez encore la possibilité d'aller voir le vernissage. C'est une exposition d'architecture aussi, organisée par le VAI, le Vlaams Architecture Institute, à Anvers, et qui sera montrée dans The Single. C'est une exposition assez intéressante parce qu'il s'agit de l'œuvre du bureau d'architecture Cousset et Ioris, mais vue à travers la caméra de l'artiste et photographe Marie-Françoise Plissard, donc artiste et photographe française, qui a, par des photos et des fragments de vidéo, montré les bâtiments et donc l'œuvre en fait, de Cousset et Ioris complètement d'une autre manière. Et donc, on retrouve plusieurs thématiques hein, de cette œuvre. Donc, d'une part, le regard et l'attention qu'il porte au contexte et au paysage urbain ou non urbain. Mais aussi, les influences de ce bureau, par exemple, ils sont très influencés par un artiste italien qui s'appelle Giuseppe Pennone. Un artiste qui, du coup, a beaucoup influencé leur travail et qui revient à plusieurs reprises dans leur bâtiment. Et puis des collaborations avec RCR Architectes, donc le bureau catalan, ou des bureaux flamands comme GAFPA et Ramwerk. C'est une exposition qui ouvre bientôt. Donc le vernissage, c'est le jeudi 22 février. Et donc une exposition qui sera montrée jusqu'au 10 juin. Donc vous avez un peu de temps d'aller voir l'expo dans The Single à Anvers. Voilà.
Et tu parlais de conférences aussi.
Et je parlais de conférences un peu plus près de chez nous. Donc la faculté d'architecture de l'ULG organise des conférences en collaboration avec la revue A+, hein, avec le VAI Anvers. Un cycle de conférences dont j'ai déjà parlé la dernière fois, donc à la dernière émission. Un cycle qui s'appelle Across et qui se concrétise maintenant avec deux conférences bientôt. Une conférence ici à Liège le 28 février, on invite l'atelier Vens van Belle, un atelier d'architecture gantois, des jeunes architectes. Et donc, en fait, comme on cherche toujours à dépasser les limites ou les frontières, donc d'une part, on va au-delà de la frontière linguistique, donc on invite un jeune bureau flamand pour donner une conférence ici à Liège. Et de l'autre côté, on veut aussi dépasser la frontière entre les générations. Donc, du coup, on a demandé à Pierre Abeling, architecte liégeois très établi, que vous connaissez tous, de faire l'introduction de ce jeune bureau. Et puis, du coup, de l'autre côté, donc à Anvers, il y aura une exposition du bureau bruxellois GRU, et donc qui donnera une conférence à Anvers avec une introduction de Bas Smets, donc à Anvers. Voilà.
Super. Et alors, les conférences, c'est le prix, le lieu?
Ah oui, évidemment. Quelques informations pratiques. Donc, l'atelier Vens van Bellen, le 28 février, dans la Galerie Opéra, donc dans l'espace ULG de la Galerie Opéra à 19h. Et le bureau GRU à Anvers le 27 février, donc dans The Single, à 20h par contre. Et il faut savoir que les conférences à Liège sont gratuites et on vous offre même un verre après la conférence, donc c'est du win-win-win. À Anvers, on paye 5 euros pour la conférence.
Super, de toute façon, on référencera tout ça sur le Facebook de l'émission, sur le site web. Et je suppose que sur A+, aussi, c'est repris.
Tout à fait, c'est sur le site de A+, du VAI, et évidemment aussi sur le site de la Faculté d'architecture.
Super, merci Lisa.
Merci, à bientôt.
À bientôt.
L'erreur est trouvable. Le dessus.
Une ville qui réussit, c'est une ville qui attire les pauvres. Cette sentence, peut-être un peu provocatrice, sans doute trop assertive pour être parfaitement honnête, a été émise par Julien Damon, sociologue et urbaniste français attaché à Sciences Po Paris, qui s'est au fil du temps spécialisé dans l'étude de la pauvreté urbaine. De ses travaux, qui concernent la France bien sûr, mais aussi l'Europe et le monde, il ressort que la pauvreté est largement prévalente dans les espaces urbains. Si des villes tentaculaires comme Rio de Janeiro, Bombay ou Lagos se construisent à coups de bidonville ou s'entassent une large misère humaine en quête d'un futur meilleur, la réalité de nos villes belges, mais surtout wallonnes, est sans doute un peu différente. Si bien sûr il serait faux et illusoire de dire que la pauvreté est un phénomène exclusivement urbain, force est de constater que chez nous aussi, c'est en ville que se concentre en poids relatif et en valeur absolue le plus de pauvres, de précaires, d'indigents, de miséreux. Dès lors, il semble inévitable que cette pauvreté impacte la manière dont se vivent, se pensent et se créent les espaces urbains. Nous nous proposons, lors de ce dossier, rien de moins que de prendre le temps d'interroger les liens qui unissent ici et maintenant la ville et la pauvreté. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Kitry Lechner, qui une fois encore viendra co-animer cette discussion, mais aussi Thomas Thibaumont, chef de service urgence au CPS de Liège, et Christine Mailly, secrétaire emblématique du réseau wallon de lutte contre la pauvreté, qui nous offrent tous les deux le privilège de leur présence sur le plateau. Alors, cette thématique de la pauvreté urbaine, c'est une thématique qui, moi, me parle particulièrement, parce que j'ai très très longtemps flirté avec les limites du seuil de pauvreté et j'en sors tout juste récemment, très récemment, dans les derniers mois qui viennent. Et donc c'est une problématique qui me tient à cœur parce qu'évidemment on va parler de statistiques, on va parler de chiffres, on va parler d'actions de manière un peu peut-être théorique, mais c'est une réalité qui touche très profondément le cœur des gens. Et on va essayer dans cette discussion d'arriver à garder en tête que quand on parle de pauvreté, quand on parle de pauvres, on parle de personnes qui sont dans cette situation-là. Alors, peut-être pour commencer, en guise d'introduction, présenter chacun de nos deux invités. Je vais leur laisser faire chacun. Peut-être commencer par vous, Thomas-Thibault Beaumont. Vous travaillez au CPAS de Liège, c'est ça ?
Dispositif d'urgence sociale du CPAS de Liège. Donc, c'est un dispositif qui regroupe plusieurs services et qui est plutôt axé sur, je vais dire, la très grande précarité, vraiment les personnes plutôt sans-abri ou en tout cas assez proches du sans-abrisme. Et donc, on regroupe la cellule SDF, qui est une, je veux dire, une antenne presque classique du CPS, qui vise à octroyer le revenu d'intégration et toutes les aides, je veux dire, toutes les missions légales d'un CPS pour ce public particulier. Le service d'urgence sociale à proprement parler, qui est un service social généraliste qui fonctionne 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et un abri de nuit également, qui lui offre un hébergement, je veux dire, aux personnes sans abri toute l'année. Et au-delà de ça, on a certains projets, certains services qui viennent se greffer à l'action, mais les principaux sont ceux-là. Et en hiver, évidemment, en étant notre action, en ouvrant un abri de nuit supplémentaire et parfois un deuxième abri de nuit supplémentaire, comme c'est le cas pour l'instant.
Oui, oui. Et faut le rappeler, le CPS, c'est dans les structures institutionnelles belges la première ligne entre la personne en situation de pauvreté et l'institution.
La première ou la dernière, ça dépend un petit peu de la vision qu'on peut avoir. Nous, le CPS en tout cas est censé être résiduaire, donc on est censé être plutôt le dernier filet de la sécurité sociale et le dernier recours. Malheureusement, depuis quelques années, ce dernier filet recueille de plus en plus de personnes. Mais effectivement, c'est un peu, c'est un peu la première ligne pour certains, mais c'est surtout la dernière pour beaucoup.
Ouais. Je me tourne maintenant vers vous, Madame Mailly. Vous pouvez peut-être vous présenter le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, vos actions.
Oui, alors le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, je dirais, il se situe à un autre bout de la chaîne de l'action sociale, de l'intervention sociale et de la justice sociale par rapport à ce qu'on peut faire dans le cadre de l'urgence sociale, puisqu'il vise à quoi ? Il vise à rassembler les personnes qui sont concernées par l'exclusion, la pauvreté, qui se sont confrontées aux institutions, qui ont vécu le rejet, qui se sentent stigmatisées, qui ont l'impression qu'elles n'ont plus de place dans la société, et des associations qui travaillent avec ces personnes. Dans quel but ? Dans le but de se dire, mais finalement, cette pauvreté qui atteint toute une partie de la population avec des intensités très variables, puisqu'aujourd'hui le spectre est très large, malheureusement, des gens qui sont affectés dans leur quotidien à être dans le trop peu de quelque chose et pour certains dans le trop peu de tout. Et pourquoi faire, pourquoi se réunit-on autour de ça ? Eh bien, pour essayer de voir quelles sont les causes qui sont à l'origine de la pauvreté et pour essayer d'agir sur ces causes. Alors, s'il peut y avoir des histoires de vie et des parcours de vie individuels qui vont entraîner parfois des difficultés, le fait de se prendre les pieds dans le tapis, etc., quand même massivement et très régulièrement, la chute dans la pauvreté et le fait d'y rester durablement est dû à un ensemble de droits organisés de telle façon qu'ils sont parfois bien nécessaires mais trop compliqués, ou qu'ils sont conditionnés à tel point qu'ils ne rencontrent plus les besoins et la réalité des gens, ou que pour des raisons d'austérité ou réseaux économiques, etc., on décide de réduire. On voit des exemples en matière de santé, en diverses matières aujourd'hui, etc. Et donc on voit que finalement la pauvreté, c'est aussi une conséquence de est-ce que le droit au logement est encore organisé pour que tout le monde accède au logement ? Est-ce que le droit à la santé est organisé de telle façon que... Est-ce que l'enseignement est organisé pour réussir avec tous les enfants, singulièrement ceux qui ont besoin d'être soutenus ? Est-ce que la politique migratoire est organisée de telle façon que les gens soient dans de bonnes conditions pour être des acteurs dans notre société, etc., etc. Donc on est dans un champ de travail politique, j'ai envie de dire, mais politique avec un grand P, donc pas une politique de parti politique, mais le réseau en fait organise le droit des citoyens confrontés à ces réalités d'exercer leur pouvoir politique dans le sens de faire des propositions, d'interpeller, d'agir dans le débat, de dire mais nous on existe et on a des choses à dire sur la manière dont il faudrait que ça évolue, non pas pour gérer la pauvreté, mais pour sortir de la pauvreté. Or, on est dans une époque problématique où il y a un peu une tension entre est-ce qu'on organise et on gère la pauvreté ou est-ce qu'on essaye de continuer à structurer des droits pour en sortir. Et on sait que même les travailleurs qui sont en première ligne avec l'ensemble de ces personnes dans la difficulté savent qu'à un moment donné elles ont l'impression que c'est un puits sans fond si on n'arrive pas à bouger au niveau des droits fondamentaux, au niveau des revenus, au niveau du statut des gens, au niveau de l'élimination du statut cohabitant par exemple, etc., etc.
On va revenir sur ces questions-là. Je proposais d'animer cette discussion selon trois parties, peut-être présenter ces parties-là. La première, peut-être revenir sur ce qui caractérise la pauvreté, notamment la pauvreté en général et la pauvreté urbaine, pour expliquer ce dont on parle quand on parle de pauvreté. Dans un deuxième temps, interroger vraiment le lien entre les pauvres et la ville, comment la ville fait les pauvres et comment les pauvres font la ville dans ce lien un peu réciproque. Et dans un troisième temps, on se concentrera sur les questions d'extrême pauvreté. Mais en attendant, je propose de commencer par une petite pause musicale avant de rentrer dans le vif du sujet. On va écouter Comfort Yourself de James Chance and the Contortions. It's better than pleasure. It hurts more than pain. I've got what it takes to drive you insane. Now is the time to lose all control. Distort your body. Ow! It twists your soul. Ow! Control yourself. Ow! Control yourself. Hey, baby, you better twist it. Control yourself. Control
Thank you.
terrain reste tourbillon. Le défi.
On est de retour sur les ondes de 48 FM pour ce dossier sur le lien entre ville et pauvreté. Je suis accompagné de Kitry Lechner, de Thomas Thibaumont et de Christine Mailly pour réfléchir à cette problématique. Et peut-être la première question que j'ai envie de poser, de quoi on parle quand on parle de pauvreté aujourd'hui en Belgique? Quelles sont les différentes manières de mesurer cette pauvreté? Combien de personnes sont dans cette pauvreté? Qu'est-ce qu'on appelle pauvreté aujourd'hui?
Je me lance. Donc de quoi on parle quand on parle de pauvreté? Je trouve que c'est une question pertinente et qui doit rester très très ouverte, parce qu'il y a plusieurs manières d'aborder la question de la pauvreté. Si on la prend par les chiffres statistiques, c'est-à-dire en évaluant par rapport à un seuil, hein, une somme d'argent minimale qui serait considérée le début de la pauvreté, on dit en Belgique qu'on est entre 15 et 16%, en Wallonie entre 17 et 18% de populations qui sont en risque de pauvreté. Ça fait 1 900 000 personnes en gros, hein, sur la Belgique. En pondérant sur la Wallonie, on doit être autour de 900 à 1 million de personnes sur la Wallonie, quelque chose comme ça. Et ça, ce sont des chiffres. Et ce sont des chiffres statistiques où, à un euro près, on est dans la statistique ou on n'est pas dans la statistique. Hein. Mais les personnes qui ont 10 euros, 20 euros ou 30 euros de plus que le seuil de pauvreté évalué dans un ménage ou pour une personne seule, aujourd'hui ne sont pas pour autant sorties de l'auberge, comme on dit. Hein. Si on a aujourd'hui 1200, 1300, 1400 euros pour vivre, qu'ils soient du revenu du travail, si on est dans un travail parfois à temps plein au salaire minimum interprofessionnel, ou si on est en emploi à temps partiel, on flirte avec le 1000 euros, le 890 ou le 900, etc. On n'est pas nécessairement à l'aise, hein, loin de là. Alors évidemment, il y a toutes les personnes qui bénéficient du revenu d'intégration sociale, bah, qui aujourd'hui d'un tout petit peu plus de 900 euros, bah, il suffit de réfléchir un peu et de savoir que si on décompte un loyer de ça, si on décompte un peu, hein, de mobilité, si on décompte l'assurance incendie, si on décompte la mutuelle, si on décompte, c'est compliqué, c'est véritablement compliqué de nouer les deux bouts. Ça, c'est les réalités un peu chiffrées. Donc moi, au niveau du réseau Wallon, on a tendance à dire que dès le moment où les gens sont en flux tendu, c'est-à-dire qu'ils ont une somme d'argent qui fait qu'on ne sait plus jamais rien mettre de côté, qu'il faut commencer à reporter une facture, qu'il faut commencer à aller négocier un étalement de paiement de quelque chose, etc., qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, on est déjà en très grand danger. Alors, il y a tous ceux qui, le danger est déjà là, on reporte la facture, mais il va falloir la morceler sur plusieurs mois, c'est compliqué, à un moment donné, on ne sait pas rattraper l'échéance. Je vais vous donner un exemple très concret, je trouve qu'il est éloquent, une agence immobilière sociale avait à un moment donné étudié les impayés du mois de septembre au niveau du loyer. Et en fait, il constatait que d'évidence, des familles avec enfants, parfois, ben, ne payaient pas le mois de septembre, mais spontanément réétalaient dans les mois qui suivaient. Ça remonte à quelques années. Et en général, pour la majorité des familles, elles recomposaient complètement le loyer du mois de septembre. Quelques années après, la même agence immobilière sociale constatait à quel point les mêmes familles n'arrivaient plus à recomposer nécessairement le revenu du mois de septembre. Donc ça, c'est des baromètres autres que les statistiques générales, mais qui montrent la difficulté qui s'accroît. Alors aujourd'hui, on est aussi en termes de type de population. C'est clair qu'être en situation de monoparentalité aujourd'hui, avec un seul revenu, quel qu'il soit, évidemment encore plus si c'est le chômage, encore plus si c'est le revenu d'intégration sociale, la maladie, à validité, c'est très compliqué parce que tout coûte cher. Mais on voit aussi des poches de personnes qui sont en maladie à validité, pour qui c'est compliqué, des poches de personnes qui sont pensionnées. On voit une explosion au niveau de l'appauvrissement des étudiants pour pouvoir accéder aux études, etc. Donc on le voit, aujourd'hui, il faut croiser des tas de données pour évaluer quelle est la condition de pauvreté. Et on voit aussi qu'il faut évaluer non seulement qu'est-ce qu'on a dans le portefeuille, mais de quoi on se prive volontairement pour arriver à nouer les deux bouts avec le peu qu'on a dans le portefeuille. Ça, c'est l'invisible, j'ai envie de dire, hein, parce qu'on peut encore être dans des statistiques par rapport à des sommes, mais ça ne veut pas dire qu'on verra qu'on se prive d'électricité et on ne mange pas très chaud parce qu'on essaye de ne pas utiliser l'attaque électrique, qu'on tire moins souvent la chasse d'eau qu'il ne le faut pour économiser l'eau, qu'on n'ira jamais vers des activités culturelles, que des enfants auront toujours mal au ventre le jour où on doit aller au théâtre à l'école parce qu'ils en ont assez d'être ceux qui ne peuvent pas apporter les 3 ou les 4 euros, etc. Ça, c'est tout la vie. Et puis, il y a tous les gens qui entrent dans la débrouille pour essayer de s'en tirer, qui en façade apparaissent comme des gens qui n'ont pas l'air de souffrir de la réalité, etc. Et qui pourtant jouent sur toutes sortes de trucs et ficelles pour arriver à s'en tirer. Et nous, au réseau, on appelle ça encore les hommes et les femmes debout, qui, malgré tout, essayent de flirter avec les lignes. Et flirter avec les lignes, c'est parfois vraiment flirter avec les lignes. C'est, par exemple, essayer de survivre malgré ce foutu statut de cohabitant, ben, en jouant, en se domiciliant à deux adresses différentes pour essayer de garder des allocations complètes, etc. C'est évidemment des personnes qui ne vont pas dire ces choses-là. Mais donc il y a une multitude de réalités. C'est ce qui nous amène nous, à dire au réseau wallon qu'on pense nous, qu'on est largement à 25% au moins en Wallonie de personnes qui souffrent de droits qui ne sont plus nécessairement rencontrés et d'une réalité de trop peu économique, de trop peu d'accès à la culture, de trop peu de réussite scolaire, etc. Et donc, c'est la preuve qu'il faut s'attaquer de façon urgente à cette réalité, non seulement pour le trajet individuel des personnes, mais parce que pour la collectivité, ce n'est pas intéressant d'avoir des gens affaiblis qui peuvent être moins contributeurs, forcément pas de leur fait, mais de la réalité de leurs conditions d'existence à la vie collective.
Est-ce qu'on peut essayer de cartographier, si on peut dire, cette pauvreté ? Est-ce qu'il y a plus une présence de populations pauvres ou appauvries dans les centres urbains ou dans les villes ? Ou est-ce que c'est plutôt réparti à l'échelle du territoire, enfin, par rapport aux zones rurales, puisqu'on peut voir qu'il y a peut-être des attraits différents qui vont se faire en ville, avec des usages peut-être qui vont faciliter la vie, avec les transports en commun ou des choses comme ça, par rapport aux zones rurales ? Ou est-ce que peut-être que cette pauvreté est la même, mais va être vécue différemment entre la zone urbaine et la zone rurale ?
Moi, je me garderais bien d'avancer des chiffres par rapport à ça, mais il y a certainement une certaine attractivité du milieu rural, justement, parce qu'il y a une certaine facilité, une certaine proximité de toute une série de services.
Urbain, tu veux dire ?
Qu'est-ce que j'ai dit ?
T'as dit rural, mais...
Excusez-moi, c'est milieu urbain. donc, effectivement, en milieu urbain, il y a une facilité qui est due, ben oui, effectivement, une mobilité qui est peut-être plus aisée, une proximité de toute une série d'offres et de services. Je pense les commerces, mais je pense aussi à des services voilà, qui ont soit un lien ou pas, mais avec les revenus de remplacement. Voilà, tout est relativement proche. Surtout en Wallonie, où je pense qu'on a des centres urbains et des villes qui sont de taille relativement modeste par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs en Europe. Hein. Je veux dire, on est sur des confettis de villes. Donc tout est très très proche et tout est relativement facile d'accès. Donc je pense que ça a un attrait. Et peut-être parfois aussi et une offre de logement qui, bien que dans son ensemble, va être peut-être plus chère ou plus onéreuse qu'en milieu rural, mais on a aussi toute une offre de logement de très mauvaise qualité et très peu adaptée qu'on va pouvoir trouver à des coûts relativement faibles. Donc c'est un peu, à un moment donné, le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on va avoir des personnes qui sont en état de précarité ou proches de l'être, qui, pour nouer les deux bouts et pour pouvoir diminuer la charge que le logement représente, vont se loger dans des conditions qui sont parfois indécentes, hein, vraiment parfois dramatiques, ce qui entraîne alors toute une autre série de problèmes. Voilà.
Oui, ce que je peux moi peut-être ajouter, la différence avec le milieu rural, et ça corrobore ce que tu viens de dire, c'est, je pense d'abord qu'il faut dire qu'il y a un appauvrissement croissant partout, hein, en milieu rural comme en milieu urbain, quantitativement et dans la diversité et la réalité. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des personnes qui se disent il y a une série de difficultés rencontrées que j'aurais peut-être plus facile de régler en ville. Ben, la mobilité, effectivement, la mobilité en milieu rural coûte extrêmement cher, hein, et difficile, et compliquée, etc. En milieu urbain, elle peut coûter aussi, mais enfin, on est quand même dans une proximité, comme on vient de le dire. Ben, la quantité de logements, effectivement, alors l'innovation en milieu rural ou l'invention des gens, ça sera peut-être d'aller en caravane, en parc résidentiel ou de trouver, mais en ville, avec tous les aléas qui viennent d'être évoqués, peut-être que il y a la réalité pour les jeunes des établissements scolaires. Lorsque il y a la force, l'énergie d'arriver aux études supérieures, hein, parce que souvent il faut déjà avoir passé bien des obstacles, malheureusement, si on est issu d'une famille avec les revenus faibles ou du milieu de l'immigration, hein, parce que ça, c'est les chiffres qui le démontrent tous les ans, malheureusement. Les universités, les hautes écoles, etc., elles sont généralement plutôt plutôt concentré en ville. Il y en a un peu en région rurale, mais c'est quand même le très petit nombre et donc elles sont quand même concentrées en ville. Il y a aussi, j'ai envie de dire, les trucs et ficelles. C'est clair qu'on va trouver plus de seconde main, de récup, de systèmes alternatifs pour accéder à de l'alimentation qui ne va pas coûter cher, etc., en milieu urbain et parfois aussi avec plus d'anonymat. Par rapport au milieu rural, ben, où les choses sont plus visibles. Le maillage aussi associatif va faire que on sait peut-être rebondir plus vite d'un type de service d'hébergement, un type de service d'accueil à une maison de jeunes, à une AMO, etc. Sans dire du tout que le milieu rural n'offre pas des choses. Hein. Mais il y a cette réalité, il y a le fait parfois aussi de vouloir se faire oublier, de se fondre dans la masse par rapport au fait de vouloir être invisible par rapport aux conditions de vie qu'on a. En ruralité, la visibilité, ça va parfois être effectivement d'être dans une caravane, dans un camping peu identifié, avec l'espoir qu'on n'ait même plus une boîte aux lettres pour que personne ne vienne plus nous déranger tellement on a souffert d'une diversité de choses. C'est clair que le milieu urbain, y a un peu une impression de pouvoir être plus anonymisé. Alors il y a aussi la réalité qui attire à la ville, moi je pense, et qui là n'est pas due nécessairement à la pauvreté, mais qui joue aussi sur ce levier-là aussi, c'est que si on est un peu différent dans sa manière de voir le monde, si on a envie d'avoir un mode de vie plus décalé que par rapport à une espèce de norme, une espèce de moyenne, etc., on va avoir plus de facilité à rencontrer un certain nombre de personnes qui vont dans le même sens, que soit pour faire groupe, pour faire relation, pour faire lien social, qu'en ruralité, il va falloir faire vite plus des kilomètres, se retrouver peut-être à quelques-uns, devoir se défendre de l'opinion, de la visibilité. Ceci sans du tout dénigrer le milieu rural dont je suis et que j'adore, mais je sais à quel point l'image, le contrôle social peuvent être puissants. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas en ville, hein, mais je pense qu'il y a une convergence d'éléments comme ceux-là qui peuvent jouer. Et parfois, la marginalité, la débrouille dans la pauvreté est la manière pour des gens de tenir. Et donc, cette marginalité en ville, marginalité au sens positif, hein, va parfois pouvoir plus facilement se construire parce qu'il y aura un agglomérat, en quelque sorte, de personnes qui cherchent dans la même direction.
Il y a une étude que j'ai envie de citer qui a été sortie en janvier 2013, qui avait été réalisée par l'ULB et le KUL pour le Centre pour l'égalité des chances en Belgique. Ça s'appelle La pauvreté rurale et urbaine. Et c'est une analyse assez complète qui fait justement, qui travaille sur la quantification en prenant différents seuils de pauvreté, c'est-à-dire en regardant différents critères. Parce que quand on parle de définition de la pauvreté, effectivement, peut-être on peut redire un mot là-dessus, mais c'est extrêmement compliqué à chiffrer parce que la logique statistique veut prendre un seuil qui est le seuil de pauvreté qui représente 60% du revenu médian. Le revenu médian étant la somme telle que la moitié gagne plus, la moitié gagne moins dans le pays. Mmh. C'est un seuil qui, évidemment, tourne autour de 1050 euros aujourd'hui, je pense, en Belgique pour une personne seule. Oui, c'est ça. C'est un seuil qui, évidemment, est totalement arbitraire, mais il y a d'autres critères de le prendre. Et cette étude fait le travail de prendre différents seuils pour parler de ces enjeux-là et réussit à faire une analyse comparée des territoires. Donc ils identifient plusieurs territoires, il y a les zones, l'urbain dense, l'urbain moins dense, le rural et rural profond, et les zones intermédiaires qui sont cette espèce de no man's land belge de la ville à quatre façades qui s'étend sur une grande partie du territoire. Et quel que soit l'indice qu'on prend, on retombe à peu près sur les mêmes proportions. Donc je vais pas donner de chiffres parce qu'évidemment si on prend le seuil de pauvreté, on est entre 15 et 20%. Si on prend des indices statistiques européens qui eux se basent sur des critères relatifs avec une série de critères, et si on rentre dans ces critères ou pas, on est considéré comme pauvre, là on tombe sur des valeurs beaucoup plus faibles, on serait seulement 6% de pauvres en Belgique selon ces analyses-là. Mais pour autant, on s'aperçoit que statistiquement, l'endroit où il y a la plus grande prévalence de la pauvreté, c'est l'urbain dense, suivi par la ruralité, et viennent après l'urbain moins dense et évidemment la zone résidentielle, la zone intermédiaire et mixte, parce qu'elle coûte plus cher simplement et que donc elle exclut de facto. Les raisons qui poussent les gens à venir vivre, à une certaine pauvreté à venir vivre en ville, on l'a déjà évoqué, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, elles peuvent être nombreuses et je crois que cette étude montre aussi que les attentes et la manière dont on vit sa situation économique et sociale est très différente de si on le vit en ville ou en campagne, parce que simplement les enjeux ne sont pas les mêmes. Les pauvres en ville ont des capacités d'économie d'échelle en vivant en colocation beaucoup plus facilement qu'à la campagne, évidemment, en mutualisant certains biens. En 2013, donc l'étude a été publiée en 2013, donc les données récoltées datent des années avant, et ça a sans doute changé, mais à l'époque, ça montrait que les ménages pauvres étaient beaucoup plus équipés en matière d'accès à la téléphonie, accès aux internets, etc., en milieu rural qu'en milieu urbain, parce qu'en milieu urbain, il y avait la possibilité d'aller téléphoner dans un cybercafé, etc. Bon, c'est des réalités que moi je connais très bien, qui ne sont peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi j'ai vécu dans cette situation-là. Effectivement, pauvre, on va en ville parce que si on a besoin d'aller sur Internet, ça coûte 20 centimes de l'heure dans le cybercafé du coin. Ça a changé depuis, je pense. Mais effectivement, on peut constater quand même une prévalence de la pauvreté en ville. De la même manière, je prends un peu des chiffres que je lance comme ça, mais de la même manière, si on prend les 50 communes les plus pauvres de Belgique, donc ça c'est des chiffres que j'ai qui datent de 2015, 35 d'entre elles sont des centres urbains, qui sont tous wallons ou bruxellois. Pourquoi la Wallonie et Bruxelles concentrent tant de pauvreté par rapport à la Flandre, où les centres urbains flamands ne sont absolument pas dans cette liste-là, alors qu'il y a des grands centres urbains en Flandre comme Gand, Anvers ou Louvain? Est-ce qu'on a des éléments de réponse
Non, des éléments concrets, non. Je suis un peu étonné. Moi, je pense qu'il y a une pauvreté en Flandre également. Et je pense qu'on a notamment travaillé sur un projet d'accès au logement qui s'appelle Housing First Belgium, enfin, qui était une expérience pilote qui maintenant est pérennisée, qui s'étalait sur tout le territoire et qui comprenait notamment des grandes villes flamandes qui étaient confrontées aux mêmes... finalement, on partageait nos constats. Elles étaient confrontées aux mêmes réalités en termes d'accès au logement et en termes de très grande précarité, puisque là, on s'adressait à un public vraiment... sans abri de longs parcours sans abri, je vais dire, de longue date. Mais les constats étaient relativement similaires. Les types de réponses étaient parfois un peu différents. Voilà, ou la manière de l'approcher était peut-être un peu différente, mais je ne vais pas me lancer dans une longue comparaison entre la Flandre et la Wallonie, c'est toujours un petit peu dangereux. Mais je ne suis pas convaincu, enfin voilà, qu'il y a vraiment un si grand fossé que ça.
Ces chiffres sont basés sur le revenu moyen. Hein. Donc c'est juste constater que le revenu moyen est par commune, effectivement, en général, beaucoup plus faible. Je crois que dans les chiffres de 2015, la commune la plus pauvre, ça devait être Molenbeek ou Saint-Josse, je ne sais plus, mais avec un revenu moyen de moins de 9000 euros par habitant annuel. Et dans ce cadre-là, effectivement, les villes flamandes ne sont pas reprises parce que les revenus moyens sont plus élevés. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de précarité ou de pauvreté à Anvers ou à Gand, ça c'est clair.
Oui, il y a de toute façon une donne de départ. Alors on va la prendre de nouveau par les statistiques, mais il faut aller voir derrière ce que ça veut dire. Mais c'est que malgré tout, le pourcentage de pauvreté globale en France, en Flandre, par rapport au seuil de pauvreté, il est de 10%, hein, quand on est quand même en 17 et 18 en Wallonie, et beaucoup plus à Bruxelles, hein, on est à 20, uniquement sur base de ces chiffres-là. Donc il y a cette réalité-là. Alors effectivement, moi, donc, je ne vais pas me lancer non plus dans un grand débat communautaire et historique, mais je veux dire, il y a une histoire, hein, il y a le passé de la Wallonie et de Bruxelles, le passé industriel, la reconversion, etc., etc. Et donc il y a un peu une inversion des choses depuis un certain nombre d'années, où effectivement la Flandre est sur une vague d'enrichissement, j'ai envie de dire, qui a des retours bénéfiques sur sa population. Par contre, ce qu'on peut quand même constater, puisque moi j'ai des collègues flamands, réseau flamand de lutte contre la pauvreté, et ça, je pense que ça veut dire que ça rejoint un peu ce que tu ressens à partir des dynamiques Housing First, c'est que malgré, j'ai envie de dire, la grande richesse de la Flandre depuis des années, la Flandre stagne avec ses 10% de personnes en situation de pauvreté. Et aujourd'hui, avec quelques décisions politiques qui sont prises, il y a même un tout petit chouïa d'augmentation, faible, hein, mais un petit chouïa d'augmentation. Donc, ça veut quand même dire que c'est bien des questions d'options d'organisation de société et d'options politiques, de se dire à un moment donné, on veut éradiquer la pauvreté. Et donc, la richesse produite, vers qui proportionnellement va-t-elle lorsqu'elle est produite? Donc, on peut supposer, et je n'ai pas les chiffres en Flandre, mais que on stagne au niveau de la pauvreté, alors qu'il y a des gens probablement qui s'enrichissent toujours de plus en plus, puisqu'il y a une richesse croissante. Et donc, la théorie du ruissellement, dont on sait qu'elle ne marche pas, mais elle ruisselle probablement pour certains quand elle ne ruisselle pas du tout pour d'autres, probablement. Donc, je pense que ça, c'est la vraie question. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'en chiffre absolu, en moyenne, etc., il y ait moins de pauvreté. Je pense que c'est la réalité. Mais ça ne veut pas dire que, notamment, dans le champ de la grande pauvreté, il n'y a pas hein, je le redis, hein, de la très grande pauvreté sclérosée par la réalité. Après, il y a un deuxième élément que je voudrais partager, c'est que en Flandre, en tout cas jusque récemment, puisque maintenant on a un peu des évolutions qui vont dans l'autre sens malheureusement, on a pu voir dans une étude aussi qu'avec la même somme d'argent, un Wallon vit plus pauvre qu'un Flamand. Et un Bruxellois vit plus pauvre qu'un Flamand. Donc, avec 1 000 euros dans sa poche, on va vivre plus difficilement en Wallonie et à Bruxelles qu'en Flandre. Alors, c'est lié à plein d'éléments. Donc, il ne faudrait pas être réducteur. Il y a évidemment le territoire, par exemple. Le territoire est beaucoup plus concentré en Flandre. Donc, les questions de mobilité, d'accès aux services, etc., c'est très différent qu'en Wallonie, par exemple. Mais il y a aussi des options prises à un moment donné par la Flandre, dont on pourrait se dire que même si tout n'est pas parfait en Flandre, et qu'on n'a pas dit que c'était là qu'il fallait chercher tout le modèle, il y a quand même des options qui ont été prises sur certains champs qui ont agi. Par exemple, il y a très longtemps qu'en Flandre, les frais scolaires sont plafonnés vers le bas de façon drastique, dans l'enseignement fondamental, dans l'enseignement secondaire. Donc que l'école coûte beaucoup moins cher à un enfant flamand que ce qu'elle ne coûte en Wallonie, dans la majorité des écoles. Hein. Il y a des écoles qui font des choses pour essayer que ça soit gratuit, mais qu'à Bruxelles. Et donc, voilà, c'est un exemple. Hein. Mais c'est aussi, évidemment, le potentiel financier de la région. Il faut aussi que, par exemple, la Flandre, a déjà une assurance autonomie, hein, celle dont on discute chez nous maintenant, depuis longtemps, dans un autre modèle que celle qui est envisagée chez nous pour le moment. La Flandre rajoutait un chouïa sur les allocations familiales en plus de ce qui était organisé au plan fédéral. Mais évidemment, s'il y a un potentiel financier, il y a des possibilités d'agir sur des leviers comme ceux-là aussi. Donc quand je dis ça, moi je ne suis pas en train de dire la Flandre fait tout bien, la Wallonie ne fait pas bien, Bruxelles ne fait pas bien. Je crois que tout le monde essaye de faire avec les contingences qui sont les siennes. Par contre, c'est vrai, il y a des choix politiques là derrière et il y en a en Wallonie à prendre, il y en a à Bruxelles à prendre, comme il y en a en Flandre à prendre. Mais je redis, hein, une région riche qui n'éradique pas les 10% de pauvreté. Ça doit être ça, ceux qui nous questionnent.
Peut-être dans cette question de la ville, enfin, on voit que la ville du coup concentre la pauvreté, mais c'est aussi un coût du coup pour les communes d'essayer de faire que ces populations s'en sortent par les allocations sociales, par les aides qui sont mises en place, par les structures. Donc est-ce qu'on ne peut pas craindre aussi, si on peut dire, qu'à terme les villes essayent d'avoir des politiques marketing, si on peut dire, pour attirer des populations plus aisées, pour aussi essayer que ce soit rentable, si on peut dire, pour les communes, et avec ça de tomber dans des phénomènes peut-être, comme on peut voir dans certaines villes, de gentrification ou de relégation des populations plus en extérieur des villes, ou d'essayer d'attirer des populations plus aisées, et que donc du coup l'écart de richesse aussi s'accroît. On peut voir par exemple dans des grandes villes en France, les problématiques comme Airbnb et des choses comme ça rendent très difficile l'accession à des petits logements, et donc à des revenus plus bas pour des logements, ou les logements étudiants par exemple, c'est quand même une sorte de mainmise, si on peut dire, qui est faite sur des logements de taille modeste, et donc qui pourraient être de revenus modestes, à des populations qui sont moins aisées. Et est-ce que tout ce marketing de ville qui est mis en place ne rend pas aussi peut-être plus difficile, ou...
C'est un risque en tout cas. Je ne pense pas qu'on en soit à ce point, en tout cas que le problème ne soit à ce point développé, mais effectivement c'est un risque, mais comme Madame Maïl disait, à un moment donné il y a une question de choix politique et d'orientation politique. D'un autre côté, on peut aussi envisager ou comprendre que la politique ou la vision à long terme d'une ville soit effectivement d'améliorer justement on peut parler de chiffres, hein, son revenu moyen, son attractivité touristique, son attractivité économique. Donc je veux dire, c'est louable. Effectivement, le danger de ça, c'est de laisser de côté ou de laisser pour compte toute cette partie de la population qui est plutôt considérée comme dans la pauvreté. Voilà, c'est un danger, c'est un risque. Moi, j'ai pas l'impression, et là je peux parler plutôt pour Liège que les autres villes que je connais sans doute moins bien. On n'est pas du tout dans cette optique-là à Liège pour le moment. On est plutôt dans une politique de on veut accompagner, on veut aider, on veut adresser le problème de la pauvreté directement, alors que ce soit directement au niveau politique et au niveau des grandes orientations politiques, ou que ce soit au niveau du monde associatif qui peut tourner autour et avec. Mais voilà, je pense qu'effectivement, il y a un risque et on pourrait tomber dans ce travers-là.
On reviendra sur ces questions-là parce que c'est des questions qui sont essentielles, d'autant qu'on l'a déjà dit dans cette émission dans d'autres cadres, la fiscalité des ménages sur les ménages est le principal source aujourd'hui de financement pour les communes et effectivement l'enjeu se pose. Mais je propose de faire une petite pause en écoutant un morceau qui s'appelle Lily qui est fait par Fefe, Ayoendie, Brass Band et Suarez. C'est une reprise de Pierre Perret, ça parle de pauvreté et de migration, c'est très beau, vous allez voir.
Mi do azanko, mi bo mi bo. Mi do azanko, mi bo mi bo. Me hole mi do azanko, mi bo mi bo. Na nue mi ma nue wa. Mi bo mi bo.
Mi do azanko,
mi do azanko, mi bo mi bo. Mi do azanko, mi bo mi bo. Me hole mi do azanko. Mi bo mi bo na nue mi ma nue bo wa. Mi bo mi bo mi do azanko. Mi bo mi bo mi do azanko. Mi bo mi bo me hole mi do azanko. Mi bo mi bo na nue mi ma nue bo wa. Mi bo mi bo.
On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est tapée des sales boulots, Lily. Elle crie pour vendre des choux-fleurs. Dans la rue, ses frères de couleur l'accompagnent au marteau-piqueur. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Elle aime un beau blond frisé, Lily, qui était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit nous ne sommes pas racistes pour deux sous, mais on ne veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily, ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir là-bas aussi ce fut le noir. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit viens, ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un type bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris.
Mi do azanko, mi bo mi bo, me hole mi do azanko, mi bo mi bo, na nue mi ma nue bo wa, mi bo mi bo.
L'erreur est tout bon. Le dossier.
Vous êtes bien sur 48 FM, vous écoutez L'Erreur est urbaine. On va reprendre sur le thème de notre émission de la pauvreté et de la ville. Donc peut-être pour reprendre sur les suites de la discussion, ce serait peut-être d'essayer d'identifier plus spécifiquement ce qu'est la pauvreté à Liège, dans la ville de Liège, et comment elle se caractérise, s'il y a des éléments plus distinctifs, ou d'essayer peut-être de caractériser ça à l'échelle de la ville de Liège. Mmh. Et de chiffrer un peu aussi peut-être ce que représente la part de la population pauvre dans Liège.
Mmh. Je vais vous dire, pas que je sois particulièrement allergique aux chiffres, mais je suis par contre très très prudent quand j'en avance, donc je vais certainement pas vous avancer comme ça un chiffre de but en blanc. Et vous dire quand même que moi, je veux dire, mon domaine, c'est vraiment la très grande précarité. Donc j'en parle beaucoup plus facilement que la pauvreté au sens large. Et on a évoqué toute la diversité que la pauvreté peut recouvrir. Et il y a certains pans que je connais évidemment beaucoup moins bien. Maintenant, est-ce qu'il y a une particularité à Liège par rapport à d'autres grandes villes? Franchement, c'est compliqué. Je saurais difficilement vous dire si c'est vraiment particulier, hormis ce côté très concentré. Donc, j'évoquais tout à l'heure les villes confettifs. Hein, c'est un peu la manière dont on les appelle, mais ça veut dire aussi qu'au niveau de la très grande précarité, ce qu'on peut constater, c'est qu'à Liège, en tout cas, elle se concentre sur un tout petit territoire, ce qui peut parfois donner l'impression... finalement qu'il y a beaucoup de gens en rue. On a parfois ce sentiment là, des personnes qui ne sont pas spécialement liégeois, ou même certains liégeois, mais qui disent, mais finalement on ne sait pas faire 10 mètres sans croiser un SDF, on ne sait pas faire 10 mètres sans croiser. C'est peut-être pas faux, en tout cas à certains endroits, mais c'est lié au fait que, voilà, que tout est concentré sur un même lieu. C'est peut-être une particularité de la manière dont Liège est organisée en tant que ville, géographiquement parlant.
Oui, c'est ça, on est dans une ville qui est extrêmement centralisée vers son centre, évidemment, donc c'est là où ça concentre.
Dans un hypercentre, finalement, tout tourne autour de la place Saint-Lambert, grosso modo, tout tourne autour de la place Saint-Lambert, et on n'est jamais très très loin de l'hypercentre. Donc c'est une particularité, mais ça ne veut pas dire que la pauvreté se limite à ça, et elle s'étend évidemment bien au-delà de l'hypercentre, sous d'autres formes qui sont souvent beaucoup moins visibles. Une particularité de Liège, pas tant dans sa pauvreté entre guillemets, mais en tout cas dans la manière dont elle l'adresse, c'est que on travaille vraiment sur une philosophie de travail en partenariat très très forte entre les acteurs publics et privés. Et quand je dis public, je pense au CPS, mais pas uniquement. Je pense aussi à la ville, et je pense aussi à d'autres institutions plutôt. Peut-être parfois plutôt même fédéral, mais je pense aux allocations de remplacement notamment. Et privé, je pense à toutes les ASBL, les ASSOS qui peuvent être actives dans le milieu de la pauvreté, avec qui on travaille vraiment conjointement au sein de différents réseaux qui sont plus ou moins organisés, mais en général plutôt organisés. Je pense au relais social du Pays de Liège, et je pense notamment au plan de cohésion sociale également, où c'est vraiment des plateformes de collaboration où on travaille ensemble à améliorer nos actions, à redéfinir nos objectifs, à redéfinir la manière dont on aborde certaines problématiques. Voilà, c'est une particularité. Je pense que ça ne se retrouve pas aussi fort dans toutes les grandes villes, même si ça existe ailleurs. Hein. C'est pas, on n'a rien inventé. On n'est pas. Mais je pense qu'il y a une particularité ici qui est celle-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment un réseau assez fort. Voilà, Madame May va peut-être me contredire. Elle a peut-être une vision plus large de la Wallonie dans son ensemble. Mais en tout cas, sur Liège, c'est la sensation que...
Non, sans être expert sur la question, c'est vrai que le plan de cohésion sociale à Liège est assez ambitieux. En tout cas, apparaît comme tel. Peut-être qu'effectivement, Madame May peut amener une vision plus nuancée. Mais...
Donc, c'est-à-dire que d'abord, je ne suis pas une spécialiste de Liège. Hein, donc, tout ça est prudent. Et ce que je me dis, c'est j'essaye de voir un peu. Ben, moi, je vais assez régulièrement à Charleroi, assez régulièrement à Liège, régulièrement à Bruxelles, beaucoup à Namur. Et puis, par moment, dans des villes comme Mons, comme Tournai, comme Arlon, donc des plus petites villes, etc. Et je ne sais pas s'il y a des caractéristiques liégeoises particulières. Ce que je vois, en tout cas, c'est que partout, on voit plus de gens en rue aujourd'hui qu'hier. Donc il y a des signes extérieurs de dégradation de l'ensemble de la société, bah, qui se traduisent par de plus en plus de gens qui perdent tout et qui sont dans un désœuvrement important. Et ça se voit. Partout on dit difficultés par rapport au logement, etc. C'est une évidence, avec des intensités un peu variables, mais c'est une évidence. Maintenant, je pense que c'est particulier, ce que je veux dire, il y a un côté un peu paradoxal, mais en même temps c'est ça qui fait la richesse des choses. Il y a des villes ou des endroits où on va beaucoup plus vite admettre et identifier des difficultés vécues par les populations et se dire que plutôt que de les nier, plutôt que de vouloir les chasser, etc., on va essayer de s'en saisir. Et donc on organise une série de services, une série de prises en compte de choses. Ça peut aller depuis l'abri de nuit, en passant par un accompagnement plus audacieux des personnes qui malheureusement sont prises dans le filet de la consommation, drogue, alcool, etc. Ça peut être par rapport à de l'accompagnement au logement, etc. Et donc, forcément, les personnes, les populations vont se retrouver peut-être dans un circuit d'offres de services qui sont là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est toujours bien que ça soit comme ça et que tout fonctionne en tournant tout rond, etc., et que tout est idéal et que tout est organisé et qu'on écoute le rythme des gens et qu'on se demande est-ce qu'on part vraiment d'eux par rapport à l'offre de service qui est organisée, etc. Mais ça peut jouer sur les particularités du fait d'être à Liège plutôt qu'à Charleroi, plutôt qu'à Arlon, plutôt que, etc., etc. Ce qui peut jouer aussi, c'est le manque de solidarité intercommunal, hein. Des communes qui vont se dire bah moi j'ai pas besoin d'organiser quelque chose parce que finalement il y a assez peu de gens et je vais dire aux gens d'aller voir là où il existe des services, etc., ce qui va engorger évidemment les villes qui comptent déjà beaucoup de personnes sur leur territoire qui demandent un accompagnement ou à être aidées au détriment des autres. Donc là moi je pense qu'il y a un jeu, il y a des options qui devraient être prises au plan politique d'organisation de solidarité intercommunale. Sinon, c'est évidemment les mêmes communes qui absorbent le plus en grande quantité des personnes en difficulté, qui vont devoir investir davantage dans des réponses et des solutions depuis la plus contraignante dans la forme d'accompagnement jusqu'à la plus autonome, etc., qui vont... et c'est sur ces villes que le budget, etc., va peser. Et donc forcément c'est un cercle vicieux parce que plus ces villes, ça va peser sur le budget, plus elles vont devoir investir à ce niveau-là, plus j'ai envie de dire elles vont s'appauvrir, et quantitativement le risque de, enfin, le risque qu'on évoquait tout à l'heure de la gentrification, quantitativement il va se produire à un moment donné parce qu'il va falloir des réactions pour équilibrer les choses et se dire mais il faut qu'on attire de la population qui a des moyens, il faut qu'on attire des habitants qui ont des moyens, etc. C'est pas complètement anormal. Le problème à mon avis, quand on voit comment la Wallonie est un mouchoir de poche, moi personnellement je trouve que le problème il se situe au plan wallon et au plan d'une conception wallonne de l'organisation des ressources et des moyens pour se dire comment est-ce qu'on tire tous les wallons vers le haut et en arrivant à le faire dans une justice d'occupation du territoire, d'accès à l'habitat, de revenus, d'accès à l'emploi, etc. Et donc dans une mixité sociale qui se ferait naturellement si on la réfléchissait de cette façon-là. Alors qu'aujourd'hui, comme on joue sur des clivages de frontières à tous les endroits, eh bien, on laisse en quelque sorte imploser à l'intérieur, ben, Liège à l'intérieur de Liège, Charleroi à l'intérieur de Charleroi, Bruxelles à l'intérieur de Bruxelles, à dire réglez vos trucs, les gars, arrangez-vous pour que, si possible, les gens ne soient pas à la rue, mais que la personne aisée ait l'impression de vivre dans une ville où elle ne voit pas qu'il existe un seul problème. Étirez-vous-en pour équilibrer vos budgets et étrangler éventuellement le CPAS si on est sous crack, etc., parce qu'il y a des difficultés financières, etc. Et avec tous les effets pervers que ça entraîne, la quantité de gens qui vont vers les services et donc forcément, à un moment donné, une qualité de temps, une qualité d'écoute, une qualité d'empathie, une qualité de cheminement qui convient à la personne qui va se réduire par la force des choses. Puisque on engorge en quelque chose les endroits qui devraient être les plus assouplis, ceux où il devrait y avoir du temps humain le plus important. Donc c'est compliqué la question que vous évoquez parce que c'est très synergique, tout tient à tout. Tout est lié ensemble. Et donc, je pourrais vous dire, après ce que tu viens de dire par rapport à l'associatif, c'est plus compliqué que ça. Oui, il y a des liens, mais est-ce qu'ils sont toujours bien organisés? Est-ce qu'il y a un respect de la dynamique innovante de l'associatif qui peut-être se confrontera au service public qui se dit oui, mais nous, c'est comme ça que ça doit aller? Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y ait pas plus de contrôlite qu'il ne faut? Parce qu'aujourd'hui, à tous les étages du pouvoir, on demande de la contrôlite. tout ça est compliqué. Mais je pense que c'est cette ensemble de conceptions systémiques, et c'est très intéressant ce que vous prenez comme point d'approche, la ville et tout ça, parce que c'est comment on organise la structure, le cadre général, l'organisation de son bâti, de la mobilité, de son rapport aux autres villes, etc., qui va agir sur les conditions d'existence des gens, qui agira sur faciliter ou entraver la mixité sociale, donc qui provoquera de la gentrification en plus, qui fera que les services seront meilleurs ou moins bons dans leurs prestations, pas parce que les gens sont mauvais à l'intérieur, mais parce qu'ils sont pris dans des contradictions qui sont à un moment donné immaîtrisables. Tout ça dans un contexte où, au plan européen, mondial, etc., on assurera un appauvrissement généralisé. Hein. Et donc, comme tu le disais tout à l'heure, on va arriver souvent... une partie des gens vont arriver en première ligne au CPS alors qu'ils ne devraient pas y arriver du tout. Parce que si effectivement le droit à l'emploi, le droit au revenu, le droit au logement, le droit à la santé et le droit à un enseignement qui réussit, rien que ça, y a plein de gens, ils n'ont pas besoin d'aller demander de l'aide si ça s'était réglé.
Il y a quelques mois, on faisait une émission sur les enjeux d'étalement urbain et notre invité disait le problème principal de l'étalement urbain, enfin un des problèmes principaux de l'étalement urbain, c'est la question fiscale et la question économique, évidemment. Pourquoi ? Oui, parce que la ville concentre les charges de centralité de manière... finalement assez logique et assez évidente. Et il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de péréquation entre les différentes institutions communales, on va dire. Et ça pose la question sur l'enjeu de pauvreté. On voit qu'il y a une prévalence de la pauvreté en ville, sous toutes ses formes, que ce soit dans la... Mais alors, l'extrême pauvreté encore plus, parce qu'évidemment, c'est là où il y a le service beaucoup plus facilement. Enfin, moi qui suis de Comblain-au-Pont, où il y a aussi une politique sociale assez active, assez dynamique, c'est évident qu'il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes masses critiques non plus pour proposer un service qu'une ville comme Liège peut proposer. Sauf qu'aujourd'hui, dans une situation où on sait qu'au niveau du droit au chômage, par exemple, il y a une pression qui est faite sur les chômeurs qui, de plus en plus, se retrouvent privés de ces droits-là, qui, entre guillemets, on en parlait en off tout à l'heure, mais ça vaut peut-être le coup de le dire au micro, se retrouvent à devoir demander l'aide au CPS, qui est un niveau communal, qui est un échelon communal. Donc c'est sur les finances de la commune que finalement ça revient à peser, non ?
En partie, en tout cas. Donc, pour clarifier quand même, pour pas se dire que c'est tout revient au niveau communal. Donc, à partir du moment où une personne est aidée par un revenu d'intégration sociale, il y a toute une partie de ce revenu-là qui est pris en charge par le niveau fédéral. Donc, c'est un pourcentage. Il reste évidemment un pourcentage qui incombe au CPS. Et donc, par définition et dans la manière dont c'est construit, dont le CPS est construit en tant qu'institution, à la commune et à la ville, puisque financièrement, le CPS dépend de sa commune. Et donc, enfin, moi, mon avis, c'est que la loi fondatrice des CPS est une loi exceptionnelle. Humainement, enfin, c'était avec des valeurs humanistes très, très fortes. On voit assez peu de législation aussi humaniste dans leur construction. Pour moi, la seule erreur, c'est d'avoir lié ça au territoire communal. La seule, j'exagère peut-être, mais en tout cas la plus grosse ou celle qui me saute le plus aux yeux, c'est celle-là, parce qu'effectivement alors on a un problème de territorialité. Donc un CPS est compétent sur le territoire de sa commune, dépend financièrement de sa commune et donc du niveau communal, et donc effectivement il y a une difficulté en tout cas à ce niveau-là, et il y a un impact direct sur les finances communales de cette prise en charge de la pauvreté, vraiment très direct.
Avec toutes les implications de l'histoire, parce que bon, vous travaillez à la commune de Liège, qui a déjà son passé historique, et donc aussi ces ouvriers qui, il y a 15 ans encore, travaillaient, se sont retrouvés finalement dans des situations de précarité. Je pense à une commune comme Charleroi, je pense à une commune comme Serein, je pense à une commune comme Flémalle, comme Herstal, etc., où le phénomène doit être proportionnellement encore plus flagrant et encore plus fort, avec les enjeux que ça pose aussi, évidemment.
Oui, maintenant, Madame Maillet évoquait une réalité qui est parfois un peu frustrante, mais qui est une réalité. C'est ce transfert ou cette migration d'une certaine pauvreté de communes avoisinantes vers Liège, puisque là, on parle de Liège, mais je pense que c'est le cas pour d'autres centres urbains. Mes collègues de Charleroi rencontrent les mêmes difficultés, simplement parce qu'effectivement, on va avoir des communes qui font partie du même bassin de vie, je veux dire, on peut l'appeler comme ça, qui vont renvoyer vers Liège, parce qu'à Liège, il y a des services qui existent pour adresser cette problématique-là. Et peut-être que le phénomène n'est pas assez développé sur les communes avoisinantes que pour justifier la création d'un service spécifique, spécialisé dans une certaine problématique. Donc c'est évidemment beaucoup plus facile de renvoyer sur Liège, mais l'impact, il est direct, et l'impact financier, il est direct également. Et je pense, enfin voilà, moi personnellement, mais ça n'engage évidemment que moi, moi je pense que l'avenir est dans la supracommunalité. Madame Maï était beaucoup plus ambitieuse que moi, elle parlait de la région. Moi je pense que si on pouvait déjà arriver à quelque chose en termes de bassin de vie voilà, et de regroupement de communes et de supracommunalité, notamment dans la lutte contre la pauvreté, je pense qu'on ferait déjà voilà, un pas dans la bonne direction. Si on pouvait arriver à ça au niveau wallon, ce serait évidemment...
Urbagora s'est toujours positionné justement pour une prise en compte métropolitaine des enjeux métropolitains. Et je pense qu'effectivement la question sociale mériterait d'être traitée au moins effectivement à ce dossier-là. Il y a une autre question que j'ai envie de poser, c'est la question du logement social, parce que ça concerne assez directement les personnes précarisées. On a à peu près 10% de logement social dans le parc immobilier belge aujourd'hui. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un effort là-dessus? Comment la ville peut prendre ça en charge? Je pense à la France, parce que je suis français qui trie aussi, et en France, il y a une loi qui s'appelle la SRU, qui n'est pas respectée, mais qui impose aux communes de créer au moins 20% de logement social dans toute nouvelle construction, dans tout nouveau lotissement, dans tout nouvel immeuble, etc. Qui a pour but, cette loi, d'effectivement favoriser la mixité sociale dans les quartiers, et pas juste sur le territoire communal, avec une relégation, une ghettoisation de la pauvreté dans certains espaces. Ça ne marche pas parce qu'elle n'est pas appliquée et que la majorité des communes préfèrent payer l'amende plutôt que de réaliser ça. Moi, je viens d'une commune d'une ville qui applique, ou qui a appliqué en tout cas dans le temps, cette loi-là, et on constate effectivement cette mixité sociale. Est-ce que là, il n'y a pas un élément de réponse qui pourrait être pris en charge à différents niveaux institutionnels?
Ah, moi, je suis convaincue qu'une partie énorme de la réponse, c'est pas la seule partie, mais passe par le logement. Les gens qui fréquentent le réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, d'ailleurs, disent toujours s'il y avait une chose à laquelle toucher en priorité pour améliorer nos conditions d'existence, c'est l'accès à un logement payable, d'une qualité décente pour ne pas payer des charges exorbitantes, voilà, et dans lequel on puisse rester, en tout cas pour le temps où c'est possible pour soi. Alors, est-ce qu'il y a assez de logements sociaux dans ce cadre-là? Mais certainement pas. On est dans un pays où on a un très faible pourcentage total de logements sociaux. En fait, il y a cette règle qui existe encore, mais qui est remise en question, probablement par le gouvernement wallon, d'arriver à 10% de logements sociaux par commune, mais on n'y est pas. Et donc, en pourcentage absolu sur la Belgique, on est entre 7 et 8% aujourd'hui de logements sociaux au total. Le reste, c'est du logement privé. Donc, on est dans un pourcentage très très faible. On a des pays voisins qui font beaucoup beaucoup mieux en la matière, évidemment avec des contingences différentes. La Hollande, l'Allemagne, etc. Font beaucoup plus de logements publics, dits logements sociaux. Donc c'est clair que c'est un investissement qui serait majeur et important. Mais alors on doit pouvoir le faire par toutes sortes de portes d'entrée. Aujourd'hui, on a une société wallonne de logement, de services publics qui a du logement. Ben, on voit bien que comme elle est sous-financée et qu'on lui demande toujours de régler ses problèmes à l'interne, en quelque sorte, c'est-à-dire de nouveau le serpent qui se mord la queue, quoi. Elle n'arrive pas, cette société wallonne de logement public, à la fois à suivre les rénovations au rythme où il serait nécessaire de les suivre et à la fois à construire au rythme où il serait nécessaire de construire. Donc tout ça est très lent, ça produit peu de logement. Mais il faut continuer, il faut la soutenir, il faut l'amplifier. Donc il faut demander aux acteurs communaux, etc., d'en faire une priorité du logement public et du logement social dans sa forme rénovation, acquisition, construction, transformation. Bref, là, il faut des spécialistes autour de la table pour voir ce qui est le plus judicieux, pour être le plus en phase avec la population, le moins coûteux, de bonne qualité et vite réalisé. Ça doit être ça, les critères pour arriver et à ce qu'une ville soit conçue, évidemment, sur le plan urbanistique aussi. Qu'on n'aille pas mettre des quartiers pour les gens les plus défavorisés, évidemment, complètement excentrés de la ville. Or, on sait qu'on est déjà parti là-dedans et que la spéculation immobilière s'est organisée largement au niveau des centres, des pôles, des gares, etc., avec des niveaux de loyers quand on est locataire qui évidemment montent parce qu'on a de la rénovation et que le reste... Donc il s'agit vraiment d'agir massivement. Mais on a d'autres leviers. Il existe déjà les agences immobilières sociales. Modèle très intéressant puisque lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher du logement privé pour le ramener dans le giron du social. Pour autant que l'agence immobilière n'est pas oublier la dernière lettre, la lettre sociale. Et il y a des agences immobilières sociales qui pratiquent très fort cette lettre sociale, et c'est très bien. Il y en a qui flirtent avec et qui aiment le confort. Et celles-là, moi, je trouve, il faut les tenser et il faut favoriser ceux qui n'ont pas oublié qu'ils étaient agences immobilières sociales. Ce n'est pas des agences immobilières privées. Il y en a, et elles font du bon boulot. Et elles, c'est le seul dispositif aujourd'hui en Wallonie qui crée le plus de logements sociaux en quantité par année, hein, puisqu'elle mobilise en prenant, en quelque sorte, en attirant le propriétaire privé à s'engager dans cette démarche-là. Et puis, on a des associations de promotion du logement. Et puis, on a des dynamiques comme ce qu'on appelle des capteurs logement. Ben, les agences immobilières sociales sont des capteuses logement depuis longtemps, avant la lettre, j'ai envie de dire. Mais il y a des métiers aujourd'hui, et il faut les amplifier. Et des gouvernements et des communes, elles doivent renforcer ça, se dire comment est-ce qu'on capte du logement privé pour l'amener vers l'accès à l'hébergement en priorité pour les personnes qui vivent dans la rue sans condition, avec un accompagnement, etc., vers des agences immobilières sociales, vers de la rénovation pour le parc public, etc. Il y a un travail titanesque à faire à ce niveau-là. Et moi, au réseau Wallon, on n'a toujours pas compris comment un grand plan logement n'était pas un plan déterminant de la politique publique wallonne, en articulation avec les villes et au bénéfice des villes et en réflexion avec la campagne, etc. Comment on a laissé passer pour le moment l'opportunité d'aller chercher de l'argent européen pour tout ça, alors que c'est déterminant par rapport à la lutte contre la pauvreté, par rapport à l'organisation économique, par rapport au bien vivre, etc. Donc il faut dire à nos politiques, allez rattraper les erreurs que vous avez faites de renoncer à l'argent européen qui aurait pu arriver. Allez le rechercher pour les années à venir, pour pouvoir construire. Comment on n'inclut pas des clauses obligatoires lorsqu'il y a des investisseurs privés qui font des établissements avec des commerces, etc., de se dire, il faut aussi du logement privé, mais pas seulement du logement privé coûteux, du logement privé pour toutes les catégories sociales. Parce qu'il y a la mixité sociale. Ce n'est pas les gens qui la choisissent ou qui ne la choisissent pas, hein, de vivre dans un quartier mixte ou pas, gentrifié ou pas. C'est la réalité économique de la possibilité d'accéder à quelque chose quelque part qui la produit et la provoque. Donc moi, je suis toujours un peu en colère quand on prend l'argument de la mixité sociale, hein, pour dire « Ah, il faudrait du logement comme ci pour provoquer la mixité sociale ». Mais non, c'est comment on va répondre à l'urbanisation, au logement, à la diversité des logements, au prix de leur logement qu'on produira naturellement la mixité sociale, sans devoir créer des projets pour aller faire des fêtes et des fêtes et des fêtes qui sont du raccommodage, qui coûtent cher, à essayer de mettre les gens ensemble quand ils sont dans des conditions où leurs premiers problèmes ne sont pas ceux-là et que finalement on leur impose quelque chose qui est une réparation de mauvais aloi de quelque chose qui n'est pas conçu dans la politique structurelle. Donc oui, il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Et j'ai envie juste de faire un petit lien avant parce que je ne voudrais pas ne pas dire ça. Tout à l'heure, on disait, en parlant de la ville, etc., et notamment du revenu d'intégration sociale, qu'un des problèmes que tu identifiais, c'était de dire ben, il est limité à la commune. Je pense qu'un deuxième problème, et il est aussi important que le logement, c'est toute cette dérive de l'État social actif qui est arrivée à faire peser sur l'individu le fait qu'il ne soit plus capable d'accéder à un emploi. Alors que la difficulté, c'est qu'est devenu l'emploi? Pourquoi l'emploi s'est éloigné des gens? Comment il évolue l'emploi? Qu'est-ce qu'il doit être l'emploi de demain? Et au lieu de rendre les gens responsables à titre individuel, ce qui a plein de conséquences sur ce qu'on dit, hein, sur le logement, sur où on va, sur où on cherche l'emploi, sur comment on engorge les CPS, etc., c'est de pouvoir se dire, mais c'est quoi aussi demain la société, non seulement du logement, mais la société du travail? Et les gens, ils ont envie de travailler au sens d'être contributeurs à l'organisation de la société. Mais travailler, c'est aussi qu'il puisse revenir une somme d'argent qui permette d'assumer les autres parties de sa vie. Et ce n'est pas simplement être un individu qui est né un jour, qui a grandi, qui doit traverser la vie en travaillant, qui sera dans un cercueil un jour, et puis point, amen, basta, du moment qu'il est en ordre avec ses factures, on est tranquille. Non, c'est un individu qui peut investir dans la collectivité au sens humain, au sens lien social, au sens relationnel, au sens économique pour celui qui sait le faire et qui a l'ambition de ça, au sens culturel, au sens social, etc. Voilà.
Je vais vous interrompre, c'est un vrai plaisir de vous écouter. Je suis d'accord avec à peu près tout, mais le temps passe.
Je m'emballe un peu là.
On va écouter un dernier petit morceau de musique, ce sera Chiguros de Glozoli, et puis après on va parler de. On gardera un peu de temps pour parler de l'extrême précarité, de la pauvreté plus extrême à Liège. Et voilà, d'abord un petit peu de musique.
L'erreur est humaine. Le défi.
On est de retour sur l'erreur est urbaine sur 48FM. Je suis toujours en compagnie de Thomas Thibaumont, de Christine Mailly et de Kitry Lechner et on parle toujours de pauvreté. Le temps passe très vite, la discussion est passionnante. Alors on va essayer d'évoquer en une dizaine de minutes la question de la très grande précarité et de sa prise en charge à Liège. Mais peut-être un point sur la question du logement qui n'a pas été abordé avant et qui vaut peut-être le coup aussi de signaler, c'est le statut de la colocation aujourd'hui en ville, parce que ça, c'est une réalité beaucoup plus urbaine que rurale, évidemment, à tort ou à raison. Moi, je suis colocataire en campagne, alors je suis de toutes les catégories, mais c'est peut-être un élément de réponse aussi à la crise du logement et en tout cas à des possibilités de se loger pour moins cher.
Pardon. Alors, moi, je ne pense pas que ce soit une panacée, mais je pense que c'est effectivement une solution potentielle qui, pour le moment, n'est pas assez exploitée. Parce qu'effectivement, on a beaucoup parlé de difficultés de logement, d'accès, mais aussi de maintien dans le logement et de pouvoir financer son logement et en tout cas un logement décent. C'est vrai qu'une solution assez finalement assez simple pourrait se dire, ben on va se mettre à plusieurs pour faire ce qu'on va appeler en termes très très managérial, mais faire des économies d'échelle. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on va diviser un loyer, on va diviser des charges et on va vivre ensemble dans un espace. On va créer du lien social, on va se créer un cercle de soutien, on va créer de la richesse sociale finalement en habitant ensemble. Un gros frein par rapport à ça, puisque quand je vous l'explique comme ça, ça semble vraiment super. Sauf que, a priori, pour les personnes qui bénéficient d'un revenu de remplacement, cette colocation, cette cohabitation, elle va avoir un impact direct sur le revenu, c'est-à-dire que le statut va changer. Au lieu d'être isolé, on va devenir ce qu'on appelle cohabitant. Et donc, a priori, le revenu, il est divisé par deux, pratiquement par deux. Alors, ça dépend un petit peu de l'allocation dont on a, mais on fait parfois même plus que par deux. Je pense aux allocations de chômage, par exemple. Pour un cohabitant, ça diminue jusqu'à atteindre un plancher qui était à l'époque de 300 et une chiquette d'euros. Je ne sais pas où ça en est maintenant, mais enfin, on ne doit pas être très très loin de ça. Voilà, comment est-ce qu'une personne peut vivre avec 300 euros, même en colocation ou même en étant cohabitant? Donc c'est un peu, c'est une difficulté, c'est une problématique qui est finalement qui tient à pas grand-chose et qui tient à une volonté à un moment donné et politique et une possibilité de le financer aussi. Il ne faut pas se voiler la face. Je veux dire, si on supprimait du jour au lendemain ce que moi idéologiquement je dirais, oui, c'est la solution, il faut supprimer le statut de cohabitant, ça ne doit plus exister. Mmh. Voilà. On ouvre ses droits, on crée, que ce soit au chômage ou autre, personnel, et donc pourquoi est-ce que en ayant travaillé, j'ai acquis un droit aux allocations de chômage, par exemple, pourquoi est-ce que parce que je cohabite avec quelqu'un, mon droit il est diminué jusqu'à atteindre un plancher qui est ridicule. Maintenant, voilà, il faudrait pouvoir financer ça, il faut la volonté politique de le faire, mais c'est une piste, et c'est une piste de solution qui, un, permettrait d'envisager une alternative au logement social dont on parlait, mais qui... où je voulais en venir, mais qui a aussi toute une série d'autres bénéfices, que ce soit au niveau création de liens sociaux, richesse sociale et culturelle.
Oui, avec quand même le défaut du partage de la vaisselle qui est toujours très problématique.
Voilà, ça amène toute une série d'autres problèmes, mais au moins on peut se répartir les tâches.
Mais au niveau, le partage de la vaisselle, c'est que pour financer ça, il suffit aussi de régler le problème de l'évasion fiscale, de la fraude fiscale, et de se dire aussi que ça serait un bénéfice indirect, parce qu'aujourd'hui il y a du logement en ville, parce que des personnes prennent deux adresses, il y a des personnes qui se prennent les pieds dans le tapis, qui sont sanctionnées, donc qui doivent retomber au chômage de toute façon sur l'aide sociale directe, etc. Donc c'est un tout mauvais calcul. Et il faut quand même rappeler que c'est un recul de droit. Hein. C'est un droit qui a été perdu dans les années 80, dans le début des années 80. Avant, les droits étaient individualisés. C'est déjà à un moment où on a dit, ah, mais il y a une crise financière, etc., que paf, il y a eu un recul. Donc ici, il faut le reconquérir absolument. C'est fondamental. Et le jugement, d'ailleurs, qui a eu lieu par rapport à ça est intéressant en ce qu'il dit. Ah, donc il y a 7 chômeurs qui ont obtenu le fait de garder leurs allocations complètes en étant défendus. Et c'est une décision du tout au niveau de la justice. L'argument est intéressant. Un des arguments est intéressant, c'est précisément de dire que la somme d'argent perdue, même en droit individualisé, est telle qu'il n'est pas possible qu'elle produise de l'enrichissement. Mmh. Hein, en vivant ensemble, etc. Et d'autre part, si on regarde ce que ça veut dire sur le plan de la vie privée, quoi, des personnes qui n'émargent pas, je veux dire, à une allocation de chômage, etc., revenus d'intérêt, elles peuvent faire ce qu'elles veulent chez elles. Hein. Elles peuvent vivre avec 10 personnes si elles veulent, avec des gens très riches si elles veulent. Il n'y a personne qui va s'inquiéter de savoir si les économies d'échelle qu'elles font, c'est pour aller dans l'économie réelle ou bien pour partir ailleurs.
C'est ça.
Alors... Sans vous parler, je vais quand même ajouter ça parce que Mme Maï me lance, ou me tend une perche en tout cas en parlant de bénéfices secondaires. Mais c'est très difficile à chiffrer évidemment, mais je peux vous assurer que la charge de travail pour les travailleurs, moi je parle là en tant qu'agent d'un CPS, mais la charge de travail que ça représente pour les agents de CPS de contrôler ça, de traiter les dossiers, que ce soit des dossiers de fraude ou des dossiers de calcul de ressources, puisque à un moment donné, si vous déclarez que vous êtes cohabitant avec une personne qui a des ressources, il y a un calcul qui doit se faire par rapport à qu'est-ce que vous allez promériter comme revenu par rapport au revenu de la personne qui cohabite avec vous. C'est une charge de travail qui est colossale. Et pendant qu'on fait ça, pendant que les agents travaillent à ça, ils ne font pas l'accompagnement social. Ils ne font pas autre chose qui serait sans doute beaucoup plus bénéfique, en tout cas pour la réinsertion des personnes ou l'insertion des personnes qu'on prend en charge. Donc on parle de bénéfices secondaires. Celui-là, il serait, en tout cas pour un CPS comme Liège, c'est énorme en termes de charge de travail.
Oui, ça, je veux bien imaginer. Et donc peut-être enchaîner assez rapidement sur la question de la très grande précarité. Ça, c'est... Je pense à vous, je vous regarde, c'est vous le chef de ça au niveau du CPS de Liège, en tout cas
pour le dispositif, oui, pour une partie. Oui, je ne sais pas ce que vous souhaitez qu'on aborde, si c'est plutôt les dispositifs qui sont mis en place, j'imagine, sur...
Les impacts, oui, c'est ça. À Liège, il y a une visibilité de la mendicité, de la toxicomanie, etc., qui est sans doute liée à plein de facteurs, mais qui est vécue, on l'évoquait tout à l'heure, par tous les gens qui visitent la ville de Liège de manière assez évidente. Qu'est-ce que la ville peut mettre en place? Qu'est-ce que ça impacte comme infrastructure? Qu'est-ce que la ville déploie comme infrastructure, comme dispositif pour essayer de répondre à cette très grande détresse sociale qu'est l'extrême précarité, la pauvreté extrême? Je ne sais pas comment vous appelez ça en interne.
Oui, là, plutôt la très grande précarité, mais ou le phénomène vraiment de sans-abrisme, je dirais. C'est un petit peu plus large que ça. On va dire qu'on s'adresse à un public un peu plus large que vraiment le public qui dort ou qui vit à la rue. Mais y a évidemment... En tout cas, à Liège, il y a une vraie volonté, et ça, il faut le reconnaître quand même, on peut être critique, mais il y a une vraie volonté politique d'adresser la problématique et d'y apporter une réponse. Après, on peut discuter de comment, quoi, et effectivement, on évoquait tout à l'heure notamment les relations associatives publiques, c'est perfectible, sans aucun doute. Ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'être stimulé, notamment par les autorités communales, c'est pas les seuls. Donc on a toute une série de dispositifs qui sont mis en place et qui sont financés, que ce soit par le niveau local, par le niveau régional, mais aussi par le niveau fédéral, pour adresser la problématique du sans-abrisme. Alors chacun avec ses objectifs propres, mais en tout cas à Liège, on met en place vraiment énormément de choses pour adresser dans un premier temps les besoins primaires. Donc on va parler d'hébergement. Donc on a notamment sur Liège 3 abris de nuit, dont 2 qui sont gérés par le CPS, financés par la région et par le fédéral. Un troisième qui est géré par une ASBL, qui est vraiment une assoce. Et voilà, on travaille en grande collaboration. Et là, sur le coup, on travaille en grande collaboration avec la ville de Serein également. On parlait de supracommunalité tout à l'heure. L'impact, l'intérêt d'un relais social comme il existe à Liège, c'est que son territoire d'action à lui est beaucoup plus large que la commune. Donc ça nous permet de créer des partenariats, notamment avec Serein, qui a un abri nu également sur son territoire. Ça, c'est vraiment pour le volet hébergement. Il y a toute une série d'acteurs qui sont présents au niveau associatif pour adresser les problématiques plutôt en journée vraiment de besoins primaires, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau... il faut manger, il faut se laver, il faut se changer, il faut laver son linge, etc. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Maintenant, on peut toujours faire plus. On peut toujours faire mieux. Il y a évidemment toujours une question de moyens et il y a une question d'organisation aussi, mais je pense qu'au niveau de la ville, en tout cas, de la ville de Liège, il y a énormément de moyens qui sont mis en œuvre, et notamment en hiver, puisque là on est en plein hiver, donc là je peux vous dire qu'on est sur le pied de guerre, et il y a tout un dispositif hivernal qui est mis en place, financé également par la région, par le fédéral, mais aussi par la ville de Liège, autorité, ville de Liège, pour augmenter les capacités d'accueil de nuit, pour créer des alternatives. Donc là, pour le moment, aujourd'hui, par exemple, on est en plan grand froid, plan froid morbide, ce qu'on appelle. Donc le terme n'est pas terriblement sympa, mais enfin, c'est le terme qui est consacré. Ça veut dire que la politique, c'est dire que personne ne dort dehors. Voilà. Ça peut paraître très simple quand on dit ça, mais après, il faut mettre ça en place.
Après, il faut arriver à mettre ça en place, oui.
Mais ça veut dire qu'on met en place des abris supplémentaires, qu'on réquisitionne des chambres d'hôtel aux besoins, qu'on a toute une série de dispositions qui nous permettent d'adresser toutes les personnes qui sont à l'extérieur. Quand on est dans ces dispositions-là, on va pouvoir leur proposer un hébergement. C'est pas pour ça qu'elles vont l'accepter. Et ça, il faut pouvoir l'entendre aussi. Mais en tout cas, on met tout en œuvre pour pouvoir répondre à ces difficultés-là. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je me suis peut-être un peu égaré.
Mais il y a peut-être aussi, enfin, je ne sais pas si on peut peut-être en parler deux mots,
très vite.
La question peut-être plus spécifique de la toxicomanie, parce qu'on a entendu ces derniers temps, il y a un projet d'ouverture d'un centre d'injection, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme,
oui.
qui est en projet par la ville de Liège, donc je ne sais pas si ça peut peut-être être intéressant.
Tout à fait, donc c'est... Oui, tout à fait. Ben, c'est un cheval de bataille de M. le bourgmestre, notamment de très longue date, hein, qui a donné lieu à une expérience pilote qui s'appelait Tadam, qui est terminée maintenant. Donc j'imagine que ça, vous avez entendu parler. Donc c'était un centre de délivrance d'héroïne médicalisée, donc de la diacétylmorphine, qui était organisé en expérience pilote, supervisée par l'Université de Liège, mais qui a montré certains résultats probants, en tout cas en termes d'accompagnement de la consommation, et qui a permis de... En tout cas, d'avoir des résultats assez intéressants, notamment en termes de réduction des risques, et qui a mené à l'idée de l'idée était déjà là, mais ça a conforté l'idée de dire finalement, pour adresser cette problématique de la toxicomanie, et notamment plutôt de la toxicomanie type héroïne, parce que c'est vraiment ce qui pose beaucoup de questions en termes de visibilité sur la voie publique, en termes de danger pour la santé, en termes, voilà, c'est vraiment une drogue très, 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 très dure. L'idée est de dire, pourquoi ne pas créer un espace supervisé qui va permettre de réduire toute une série de risques associés à cette pratique. L'interdire complètement, ça marche pas. La prohibition, ça marche pas. Je veux dire, l'histoire a montré que la prohibition pure et simple, ça ne produit jamais les effets escomptés. Et donc, pourquoi pas essayer de l'encadrer et d'essayer d'amener ça vers une pratique qui soit sécurisée pour les personnes qui la pratiquent et puis accompagnée. Et évidemment, l'idée derrière ça, c'est quand même de dire, à un moment donné, on va pouvoir travailler avec ces personnes vers autre chose. Non seulement apprendre à gérer sa consommation, mais éventuellement arriver à en sortir. Sans l'imposer aux personnes dès le départ, on parlait de respecter le rythme des personnes tout à l'heure, ça vaut pour les personnes qui sont toxicomanes aussi, à un moment donné ils ont leur propre rythme, il faut pouvoir essayer de respecter ça, tout en leur offrant un environnement sécurisé. Voilà, ça se heurte à toute une série de difficultés évidemment, notamment au niveau légal, hein. Finalement la ville devient une espèce de super dealer qui propose une salle de shoot, mais aux yeux de la loi c'est ça. Donc après, il y a tout un travail qui a été initié par Monsieur le bourgmestre, mais pas uniquement, mais notamment lorsqu'il était aux autorités fédérales pour essayer de faire changer, de faire évoluer la loi. Et là maintenant, il a vraiment le souhait d'avancer. Et donc ça se concrétise effectivement. Je pense que hier il présentait le projet notamment aux riverains, aux grands commerçants du quartier. Donc je pense qu'il y a vraiment une volonté d'avancer assez rapidement avec ce projet-là. Voilà.
Il y a encore un tas de questions que j'aurais envie de poser, mais malheureusement le temps tourne et on va devoir s'arrêter là pour ce dossier qui était très riche. On aurait pu, on se garde sous le coup de la possibilité d'y revenir parce que les questions sont nombreuses, je pense, parce que notamment sur, il y a des questions qu'on n'a pas abordées, qu'on n'abordera pas. Donc je ne vous pose pas la question, mais je la pose aux auditeurs quand même parce que elles ont un intérêt, c'est le partage de l'espace public avec la pauvreté. Notamment, il y a eu des règlements à Liège, mais pas qu'à Liège, à Charleroi aussi, je pense, sur les autorisations de mendicité. Ça pose énormément de questions. À ce qu'on veut cacher la pauvreté, l'extrême pauvreté, à quelle fin, etc. La question des mobiliers aussi, ça c'est une vieille question qui est traitée déjà par beaucoup de monde sur la question du mobilier urbain anti-SDF, la gare de Liège par exemple, pour ne citer qu'elle, les gares étant des lieux de rassemblement des gens sans abri assez fréquents, donne pas la possibilité à ces gens-là de s'allonger sur les bancs. Il y a tous ces enjeux-là, pareil pour les arrêts de bus, etc. On comprend les raisons, elles posent aussi des questions, malheureusement on ne pourra pas les traiter. Je vous remercie à tous les deux d'être venus.
Merci aussi.
Oui, merci beaucoup.
Je vous souhaite une excellente journée. Et de notre côté, on continue l'émission. Au revoir.
L'erreur est trouvée.
Après un dossier d'une très grande densité, je le disais en tout début d'émission, j'ai la chance d'avoir une nouvelle rubrique avec en la personne de Caroline Lamarche qui vient nous lire un passage de Dérivation, donc de la revue Dérivation, qui est éditée par Urbagora, dont on a déjà parlé ici. Aujourd'hui, un article qui évoque la dentisterie, c'est ça ?
Oui, alors c'est un article qui est paru dans le numéro 2, donc ça fait déjà, je pense, voire un an et demi, je pense, et qui est signé Hélène Sard, et qui faisait suite à une visite de la dentisterie, une visite nocturne qui avait été organisée par le collectif de défense de la dentisterie et par Alain de Clercq. Donc c'est un peu à la fois pour rendre hommage au collectif à Alain de Clercq, mais aussi parce que c'est un sujet très dense, très brûlant pour le moment. Et cette visite à laquelle certains d'entre nous, dont moi, avaient participé, avait été absolument passionnante. Et la chronique, en quelque sorte, est le récit de la visite à la dentisterie d'un architecte espagnol qu'on appelle El Rebelde, le rebelle, et qui nous a passionnés, qui nous a raconté un peu tout ce qu'il avait fait. Donc voilà, je commence.
On t'écoute.
Investir de nuit l'ancienne dentisterie de Bavière, débarrassée pour l'occasion du gros des déchets abandonnés par les squatteurs, admirer la façade de style Bauhaus, illuminée par des lumières changeantes, rouges, jaunes, vertes ou bleues, monter dans une semi-obscurité entre des murs ornés de graffitis, s'installer dans un auditoire décrépit au siège sommairement dépoussiéré, attendre qu'un ordinateur se montre docile au PowerPoint préparé par des étudiants en architecture, l'excitation monte et le froid. Pour le néophyte frigorifié, la dentisterie, qui paraissait de jour dans un état désespéré, se voit magnifiée par cette mise en scène nocturne, aussi magique qu'étrange. L'exposé préliminaire par les étudiants poursuit la mise en lumière, si l'on peut dire, où l'on apprend que ce bâtiment emblématique, situé à la proue de la ville et du futur nouveau quartier de Bavière, se tient encore fort bien sur ses 83 pieux franquis, son béton et ses briques. Il a été construit pour durer. Né en 1939, œuvre de l'architecte liégeois Charles Servet, d'une grande luminosité jusqu'à son rehaut de 2 étages dans les années 70, il a abrité en plein centre-ville les installations nécessaires à la formation des futurs médecins et dentistes et au suivi médical de la population. Une dizaine d'années plus tard, lors de l'abandon de l'hôpital de Bavière au profit de la Citadelle et du CHU, il s'est vu maintenu pour un répit de courte durée. Bientôt délaissé par l'université, qui préfère investir dans de nouvelles installations qu'est Godefroy Kurt, il est définitivement fermé en 2001 et vandalisé depuis. Un temps inclus par la ville dans le projet de réhabilitation du quartier, il s'est vu défendu par un collectif de citoyens mené par Alain de Clercq dans l'espoir d'empêcher la destruction de ce fleuron de l'architecture publique des années 30 à Liège. Dans cette conjoncture d'urgence et néanmoins d'attente, la venue à la dentisterie d'un architecte rebelle est un événement parfaitement pertinent et impertinent. Santiago Sirugueda est né en 1971 à Séville, à ne pas confondre avec Santiago Calatrava, né à Valence en 1951, aussi différent de lui que l'empereur de la Chine du Nord l'était de Gengis Khan qui fédéra les tribus mongoles. Si Liège a sa gare de Calatrava, elle a maintenant le souvenir impérissable de la venue de nuit dans la dentisterie interdite d'accès pour cause d'insalubrité de ce franc-tireur, figure emblématique d'une nouvelle génération d'architectes. Les parents de Santiago Sirugueda ont émigré dans les années 70 de la campagne vers la ville. À l'époque, ils ont remboursé l'emprunt de leur appartement en seulement 8 ans. Depuis, la spéculation immobilière effrénée a produit des millions de bâtiments trop chers pour la population, moins 30% de logements vides, dont 200 000 immeubles inachevés. La crise de 2008 a jeté les Espagnols dans la rue. Des milliers de trentenaires, diplômés, sans travail, réclament de pouvoir se loger normalement, entendez, ailleurs que chez leurs parents, sans risquer de s'endetter à vie. En réponse à l'impuissance des pouvoirs publics et au cynisme des banques, Santiago Sirugueda, architecte fondateur en 2003 de l'agence Recetas Urbanas, donc recettes urbaines, produit divers projets. Il intervient à la demande de communautés locales, d'associations, de collectifs culturels ou tout simplement par conviction et par colère. Les projets sont variés, de la création d'un réfectoire scolaire à la réhabilitation d'une gare condamnée, de la création de logements à bas prix à la transformation en centre culturel d'une cimenterie désaffectée. Chaque proposition est une recette adaptée à la situation et est source de multiples interactions. Sirugueda travaille avec un bureau restreint, 4-5 personnes, dont sa compagne, l'architecte belge Alice Atou. Une structure mouvante rejointe par d'autres collectifs d'architectes. Tout est affaire de réseau, chaque partenaire amenant idées, compétences et assistance bénévole venue de toute l'Espagne et parfois du monde entier. Mais le réseau fournit aussi des matériaux de récupération grâce auxquels les coûts sont diminués de moitié. Santiago Sirugueda et Alice Atou pourtant ne rient pas tous les jours. Ils sont locataires d'un modeste logement et se déplacent dans une camionnette d'occasion. tout ce qu'il gagne est réinvesti dans de nouveaux projets collectifs. Ciro Guéda négocie autant que possible avec les pouvoirs publics, mais il n'exclut pas les stratégies qui les prennent de court. Parfois, il travaille à la limite de la légalité. Tout ce que Ciro Guéda... Si Santiago admet certains échecs et s'avoue parfois désespéré ou fatigué, il se dit heureux, personnellement et politiquement. « Nous ne sommes pas des consommateurs sans discernement, dit-il, nous sommes des citoyens et nous pouvons intervenir, agir en protagoniste. » Et il ajoute que puisque la Belgique est moins chaotique que l'Espagne, moins centralisée que la France et moins snob que Londres, où il donnait une conférence la veille, Liège devrait pouvoir se réveiller, mobiliser ses citoyens et inventer en réseau des actions subversives. En soi, la soirée l'était, subversive. Nous étions tous dans l'illégalité, venus en file indienne pour investir ce lieu interdit, magnifié par ses projecteurs éphémères. Ou comment opposer au désintérêt ou au manque de projet des pouvoirs publics la puissance du rêve ? Pour une reconversion de la dentisterie en une nouvelle tour de Babel culturelle, hors normes et chaleureuse.
Merci Caroline, c'était un très beau texte tout à fait actuel, puisqu'on rappelle à nos auditeurs que la dentisterie est en danger de mort imminente. Et on référencera un peu tout ça sur le site. L'émission se termine ici. Je remercie tout le monde de l'avoir écouté. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'entendre que nous avons eu à la réaliser. Je vous mets un petit peu de musique pour arriver jusqu'à midi. Ce sera au marché du soleil de Massilia Sound System. Et en attendant, je vous souhaite un très bon appétit, une très bonne journée et je vous dis au mois prochain.
L'écho d'une guitare, des fontaines d'Orient. On y va promener sous la vieille sono. Elle joue parfois Bob Marley, il fait toujours beau. Tu verrais la joncaille, les perles et les diamants, des sourires en pagaille, un peu tous les accents. Ça sent le poulet frit sous la vieille sono. Elle joue parfois du chabi, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil.
Près de la mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter.
Viens avec moi au marché du soleil.
On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir, faut se dépêcher.
On vient de tous côtés de la Méditerranée. Tout le monde est occupé, tout le monde est employé, tout le monde est affairé. Ceux qui viennent businesser et qui vont retraverser recomptent les paquets, les bateaux remplis de toutes ces denrées. Bientôt les cales seront pleines à craquer. Quand la côte phocéenne se sera éloignée, les boutiques du marché seront déjà fermées.
Du vrai cagnard d'Afrique, il y en a à foison. De l'arc-en-ciel magique, du rouge du Japon. Viens prendre le kawa sous la vieille sono. Elle joue parfois Massilia, il fait toujours beau. Viens avec moi au marché du soleil.
Près de la mosquée de Marseille, dans ses ruelles, on se dépêche pour acheter.
Viens avec moi au marché du soleil.
On y déniche des merveilles, mais les plus belles, pour les avoir, on se dépêche.
On y vient pour voyager, on y vient pour palabrer, on y vient pour se rencontrer, pour occuper.
sa journée. On y vient pour respirer, on y vient pour échanger. On y vient sans se presser, on prend le temps pour savourer. Aujourd'hui, les Marseillais de toute communauté ont besoin d'espace pour se rencontrer. Si on voulait vraiment embellir notre cité, il faudrait un marché du soleil dans chaque quartier.
Thank you.